7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 mars, c'est la Saint-Herbert, c'est le printemps aujourd'hui, Laurent Cabrol l'a dit. Une bonne nouvelle ce matin, l'économie française résiste mieux que prévu à la crise. C'est l'INSEE qui tord le cou à nos idées reçues, les explications de Nicolas Barré dans un quart d'heure. Les députés font hurler les médecins, ils veulent forcer les jeunes diplômés à s'installer dans les déserts médicaux. Les détails dans quelques instants, dès le début du journal de 7h avec Hélène Zélani. Et puis à 7h45, le patron des facs de médecine, Jean Sibilia, sera mon invité. Lui, il est contre. L'ancien préfet de police de Paris s'en va. Le nouveau arrive. Un fusible pour Jean-Michel Apathy qui permet à Christophe Castaner de se donner un sursis au ministère de l'Intérieur. Analyse à écouter à 7h40. Et puis à 7h20, notre enquête sur une maladie qui fait peur. La schizophrénie. Semaine de sensibilisation à cette pathologie. Dossier complet dans Europe 1. Va plus loin. Ça, c'est le programme, ce qui est prévu. Mais une matinale, c'est de l'imprévu et c'est du partage avec vous. Vous êtes encore dans votre lit ? Allez, c'est le printemps. On se réveille, on sourit. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Et merci de nous avoir choisis en ce mercredi 20 mars. Bon réveil, il est 7h. 7h, 9h, c'est Nikos Aliagas sur Europe 1.
Je ne commenterai pas le débrief de Mathieu Noël.
C'est formidable.
Vous chantez bien.
J'ai honte.
Mais non, vous ne devriez pas. Le talent, c'est le talent. Hélène Zélani est avec nous. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La loi santé à l'Assemblée et un débat très animé autour d'un sujet crucial, les déserts médicaux. Faut-il obliger les jeunes médecins à s'y installer ? C'est au nom de la présomption d'innocence que le pape refuse la démission du cardinal Barbarin. Nous verrons comment on réagit dans son diocèse de Lyon. Et puis pourquoi ne pas s'offrir une petite balade sur le canal du Midi ? Il vient de rouvrir après de longs travaux cet hiver.
Et à 8h15, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, sera l'invitée d'Audrey Crespo-Mara.
Europe 1.
Avec la suppression du numerus clausus, d'ici quelques années, il y aura plus de médecins. Mais iront-ils s'installer dans les déserts médicaux ? C'est toute la question qui se pose à l'occasion de l'examen de la loi santé à l'Assemblée. Des dizaines d'amendements présentés par tous les partis vont dans le même sens. Il faut obliger les jeunes diplômés à ouvrir leur cabinet dans les secteurs délaissés par leurs aînés. Le gouvernement est contre, mais par principe, les députés déploient des trésors d'imagination pour arriver à leur fin. Ève Roger.
Pour beaucoup de députés, la solution est simple. Il faut obliger les jeunes diplômés à démarrer leur vie professionnelle dans les déserts médicaux. Et s'ils ne s'y plient pas, c'est 1 000 euros d'amende par mois. Autre sanction possible, que leur consultation ne soit pas remboursée du tout par la Sécu. À lui seul, le député de Gironde, Benoît Simion, a déposé 4 amendements et pourtant, il est de La République En Marche.
Il y a certes la liberté d'installation, mais on doit aussi répondre à l'urgence du droit à la santé qui est un droit constitutionnel. On nous répond que nous sommes coercitifs. Ce n'est pas de la coercition, mais de la régulation.
Mais pour la présidente du syndicat des étudiants en médecine, Clara Bonavion, cette avalanche d'amendements est surtout liée à l'actualité politique.
Le contexte fait que les députés cherchent aussi beaucoup à regagner la confiance de leurs administrés. Et ce que demandent les administrés, c'est un médecin.
Et dans l'entourage de la ministre de la Santé, on insiste, c'est une fausse bonne idée. Si l'on empêche les jeunes médecins de s'installer là où ils veulent, ils risquent surtout de s'en aller ailleurs, à l'hôpital, dans la médecine scolaire ou du travail.
Ève Roger.
Et on y reviendra à 7h45 avec le professeur Jean Sibilia. Il est le président de la conférence des doyens des facultés de médecine.
3 heures d'audition pour Christophe Castaner devant les sénateurs de la commission des lois hier pour s'expliquer sur l'action du gouvernement lors des violences de samedi, notamment sur les Champs-Élysées. Il a d'ailleurs révélé que les manifestants avaient failli reprendre l'Arc de Triomphe. Un peu plus tôt à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur avait été hué par certains députés qui réclamaient sa démission.
Un répit pour le cardinal Barbarin. Le pape François refuse sa démission en attendant son procès en appel.
Oui, Monseigneur Barbarin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir gardé le silence sur les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse. Hier soir, il expliquait lui-même les raisons de la décision du pape.
Pour une raison très simple, il me dit quand il y a un jugement qui va être rendu en appel, il y a la présomption d'innocence. Par conséquent, si j'accepte ta démission, ça veut dire que je reconnais que tu es coupable. Je ne peux pas faire cela. Cela dit, je comprends que tu as envie de t'écarter ou de t'éloigner un peu. Il a utilisé le terme espagnol « licencia ». Donc, il m'a dit « mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision, c'est à toi. Rome n'a pas à intervenir dans ce genre de choses, dans la conduite, pour un choix provisoire à l'intérieur d'un diocèse. C'est comme ça que j'ai fait ce choix ».
Monseigneur Barbarin sur la chaîne KTO, comment réagissent les fidèles lyonnais ? Écoutez le reportage de Jean-Luc Boujon.
Une décision sage et équilibrée devant l'église Saint-Polycarpe de Lyon. Les paroissiens étaient hier plutôt d'accord avec le choix du pape François de refuser pour l'instant la démission du cardinal. Ça aurait été trop sévère pour Paulette Hégui.
Je trouve qu'il a bien fait. Je comprends. C'est très bien le pape.
Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, quand même, parce qu'il n'est pas le seul responsable. Hein.
Pour Jean-Claude, en revanche, l'église manque là une occasion de montrer qu'elle luttait vraiment contre la pédophilie.
Il est temps que l'église catholique prenne vraiment ses responsabilités en face de ce problème-là qui n'est pas possible. Quoi.
Dès aujourd'hui, le cardinal va donc se mettre en retrait pour quelques temps, sans doute jusqu'à son procès en appel. C'est le vicaire général qui gérera le diocèse au quotidien, une décision pleine de sagesse, selon Vianney.
Je pense que ça ne peut que lui être bénéfique, ne serait-ce que lui à terme personnel. J'espère qu'il continuera à porter notre diocèse encore longtemps. On a hâte de le revoir dans ses fonctions.
Marielle est du même avis. Que le cardinal prenne du champ, c'est bien, mais il faut que cela serve à quelque chose.
Il faut qu'il réfléchisse, il faut que les choses changent vraiment. Pour faire un petit point, pourquoi pas, et revenir en pleine forme avec d'autres idées, ce serait bien.
À partir d'aujourd'hui, donc, le cardinal n'apparaîtra plus en public. Exemple, il ne célébrera plus de messe, à commencer par celle de Pâques, dans un peu plus d'un mois. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
À l'association de victimes, la parole libérée à l'origine du procès Barbarin juge le soutien du pape comme l'erreur de trop. Et puis à Saint-Denis, en banlieue parisienne, les 70 participants à une conférence sur les violences faites aux femmes n'en sont pas revenus quand ils ont vu arriver Tariq Ramadan, mis en examen pour viol. Il s'est invité dans le public et quand on lui a demandé de partir, il a refusé. On va y revenir dans le journal de 7h30.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Une journée d'hommage à la mémoire de la jeune femme de 21 ans tuée à Marseille pour un téléphone portable. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. L'émotion était très forte hier sur tous les sites universitaires d'Aix-Marseille où on rendait un dernier hommage à Marie, 21 ans.
Oui, cette jeune étudiante poignardée à mort à Marseille par l'homme qui lui a volé son portable et qui n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé. La famille est venue d'Alès pour assister à la minute de silence et à l'hommage rendu par ses camarades de la faculté d'Aix, Nathalie Chevance.
Entre les murs de la fac de lettres où Marie étudiait l'anthropologie, le cri de douleur de sa mère venue se recueillir résonne encore.
Elle était passionnée par ses études. Elle était passionnée par tout. Il faut réagir, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas permettre ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui pleure. Mais demain, c'est peut-être vous ou une autre dame.
Dans le hall, reste un bouquet de fleurs et une photo de la jeune fille souriante. À la mémoire de Marie, peut-on lire sur le grand mur blanc « Pense-toi libre », message de ses camarades profondément choqués que l'on puisse mourir pour un téléphone portable.
C'est une horreur, vraiment. C'est terrible. De faire une chose pareille pour ça, c'est impensable.
C'est triste, parce qu'elle était vraiment jeune. Elle avait quoi, un an de plus que moi. Donc, en plus, moi, je viens de Marseille. Je me sens concernée encore plus, comme c'est elle, comme c'est moi.
De la colère, de l'incompréhension. Surtout, on ne croit plus à l'humanité. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une histoire comme ça arrive. Je trouvais ça important de commémorer sa mémoire.
Mobilisation des étudiants, de la famille contre l'indifférence, la peur. Car Marie avait déjà été agressée sans que personne n'intervienne, à part pour filmer la scène sur un téléphone. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Les grévistes de la prison de Condé-sur-Sarthe se prononcent aujourd'hui sur la poursuite du blocage. Ça fait maintenant 2 semaines que les surveillants bloquent l'établissement depuis la violente agression de 2 de leurs collègues par un détenu radicalisé. Hier, le directeur de l'administration pénitentiaire s'est rendu sur place pour leur faire des propositions.
Et en ce premier jour de printemps, on vous emmène en balade au fil de l'eau.
Oui, sur le canal du Midi qui vient tout juste de rouvrir à la navigation après 4 mois de travaux. Il avait dû fermer brutalement au lendemain des inondations dans l'Aude. Benjamin Péter s'est rendu sur les berges à la hauteur de Carcassonne.
Des arbres en travers, des mètres cubes de terre qui bouchent le canal, c'est le spectacle qu'ont découvert Christelle Bernès et ses équipes de VNF le 15 octobre. Aujourd'hui, les berges sont stabilisées, mais à certains endroits, comme sur le bief de Saint-Jean, où un glissement de terrain a laissé un trou béant, on a dressé temporairement un monticule de terre.
Là où il y a eu des ruptures de digues, on a reconstruit à l'identique, on a reconstruit la digue. Et à cet endroit-là, on a préféré prendre une solution, on va dire, temporaire, qui a permis de réouvrir à la navigation en sécurité. Si ça continue à tomber, ça ne tombera pas dans le chenal, mais à côté sur la terre.
4 millions d'euros ont été nécessaires pour réaliser ces travaux, indispensables alors que jusqu'à 10 000 bateaux empruntent le canal chaque année. Felipe Escobar dirige le boat, l'un des principaux loueurs.
On a des bateaux qui sont sortis du canal, donc ça a pris tout l'hiver pour réparer les bateaux et les repréparer pour la saison.
Là, vous êtes prêts du coup ?
On est prêts. Ça participe au rayonnement de la région et du canal à travers le monde. Et c'est des clientèles qui sont vraiment intéressées par le côté culture, nature et gastronomie de la région.
Et dès la fin de la saison, en novembre, VNF va lancer une nouvelle série de travaux pour effacer les derniers stigmates des inondations. À Carcassonne, Benjamin Péter, Europe 1.
Et puis c'est ce qu'on appelle un miraculé. Un petit garçon de 5 ans qui s'était perdu lors d'une promenade en famille a survécu pendant 24 heures dans un désert de l'ouest de l'Argentine. Un millier de bénévoles s'étaient lancés à sa recherche. C'est un ancien pilote de moto du rallye Dakar qu'il a découvert à plus de 20 km de là où il avait été vu pour la dernière fois. Il était légèrement déshydraté mais plutôt en forme. Il a raconté qu'il avait bu dans un ruisseau et mangé de l'herbe.
C'est mignon, bah tout va bien. Merci Hélène Zélani.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, c'est très simple. Vous nous appelez, le répondeur vous attend au 39-21, 50 centimes la minute. Et sur les réseaux sociaux également, Twitter, avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 7h10, comme chaque jour, Nico, on retrouve Martin Fenot.
J'ai hâte de savoir ce qu'il fait ce matin. Bonjour Martin.
Bonjour Nico, bonjour à tous. Alors
vous,
écoutez,
vous
ce matin,
êtes où ce matin?
Effectivement, je suis où? Je suis en face d'une porte en acier, derrière laquelle se trouve un trésor inestimable qui vient d'arriver en France dans la plus grande discrétion, un transport ultra confidentiel pour le trésor d'un célèbre pharaon, Toutankhamon.
Oh,
on va
chance.
Pouvoir le voir ici, sous la halle de la Villette, à Paris, dans 3 jours, dans le cadre d'une exposition très attendue et après un voyage digne d'un déplacement de chef d'État. Vous allez le comprendre, certaines étapes du transfert depuis Los Angeles sont presque classées secret défense. Les objets ont plus de 3000 ans, les bandelettes en or de la momie par exemple. Je vous laisse imaginer avec quelles précautions extrêmes le transporteur a préparé la livraison par avion.
Cet avion est équipé d'un système de contrôle de la température qui se situe entre 20 et 22 degrés. On transporte ces 150 objets dans 20 caisses qui ont été faites sur mesure.
Elles sont arrivées quand?
Elles sont arrivées, mais je ne peux pas vous donner ces éléments-là pour des raisons de sécurité liées au transport de ces marchandises.
Vous entendez, hein, c'est sensible, je n'ai réussi à savoir ni la date du transport, ni l'aéroport d'arrivée, tout ça est resté secret. Ce que je peux vous confirmer en revanche, Nikos, c'est qu'une fois arrivé en France, le trésor a été chargé dans des camions avec tracker GPS à bord pour pouvoir les géolocaliser à chaque instant du trajet jusqu'à la Villette.
Ah, j'imagine, est-ce que les pièces sont toutes arrivées en bon état?
Alors oui, mais sachez qu'il a fallu attendre 48 heures pour le vérifier. 48 heures nécessaires pour que ces objets s'acclimatent à l'atmosphère ambiante. Une attente interminable pour Dominique Farou, le conseiller scientifique de l'exposition. Écoutez.
Je ne veux même pas y penser. Ouais. Non mais vous vous rendez compte, on a des gants en lin qui ont 3300 ans. Je n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse transporter ça. Ce sont des objets incroyables, quoi. La boîte à arc de Toutankhamon, qui est en bois, en cuir. Les extrémités sont en faïence égyptienne. À la moindre erreur au niveau de l'humidité ou autre, on risque de les abîmer.
C'est très impressionnant, en tous les cas. Et le trésor est en sécurité maintenant, hein, Martin?
Alors, en tout cas, tout est fait pour qu'il le soit. La Villette a presque changé toutes ses portes, plus d'une centaine pour des modèles en acier trempé. Le trésor est gardé nuit et jour parce que même si c'est inestimable, les assurances lui ont quand même donné un prix à ce trésor, un prix affolant,
allez-y,
plus d'un milliard de dollars.
Un milliard de dollars, l'assurance de Toutankhamon, vous entendez dans le studio?
C'est incroyable.
Un milliard de dollars. Il y a un dicton égyptien qui disait « Tout ce qui est passé est mort, Toutankhamon nous prouve le contraire, presque oui, 3500 ans plus tard. » Merci Martin Fenot, le trésor de Toutankhamon à voir absolument à partir de ce week-end à la Villette à Paris, si vous êtes de passage dans la capitale. On en reparle dès 10h sur Europe 1 avec Wendy Bouchard dans l'émission Le Tour de la Question.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, l'édito éco avec vous, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Comment se portera l'économie française cette année? Si on écoute les Français, tout va mal. Si on écoute l'INSEE, pas
tout
pareil.
Tout va beaucoup mieux, oui exactement. Enfin un peu mieux disons. Voilà.
Vous nous expliquerez pourquoi. À 7h20, zoom sur une maladie qui fait peur et qui agite les fantasmes. On parle de quoi, Mélanie Gomez?
De schizophrénie.
La schizophrénie, Europe 1 va plus loin, dossier sensible à suivre. Juste après ça, bon réveil à tous.
Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Le maire de Nice, Christian Estrosi, demande au gouvernement d'interdire le rassemblement des Gilets jaunes annoncé dans sa ville pour le week-end prochain. Il assure que sa demande va être examinée. 450 euros, c'est le montant moyen de la prime exceptionnelle défiscalisée reçue par 2 millions de salariés. 37% ont même touché le maximum autorisé par le dispositif, soit 1000 euros. La dernière provocation de Tariq Ramadan, l'islamologue condamné pour viol s'est invité à une conférence sur les violences faites aux femmes. Et puis l'avertissement de Bruxelles à la Grande-Bretagne, un report du Brexit aura un coût économique et politique. Theresa May s'apprête à demander à l'Union de repousser la date du divorce. Un mot de météo en ce premier jour de printemps. Le soleil va briller quasiment partout. Toujours des températures fraîches ce matin, mais ça remonte cet après-midi de 12 à 18 degrés.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant le journal de 7h30. Europe 1. Et tout de suite, place à l'édito éco, Nikos, avec la Banque Rhône-Alpes. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, Banque Rhône-Alpes, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Nicolas Barré, dans le studio, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, comme tous les jours. Eh bien, on va parler d'économie, puisque c'est un paradoxe. Malgré la crise sociale que traverse notre pays, l'économie française se porterait ou se porte plutôt mieux que ses voisines.
Oui, voilà. Si vous prenez, par exemple, les deux plus grandes économies de la zone euro, la France et l'Allemagne, eh bien, elles offrent des visages très contrastés. L'Allemagne, par exemple, craint une récession. C'est ce qu'ont dit hier les 5 sages, qui est un groupe d'économistes qui conseille le gouvernement. Ils prévoient un petit 0,8% de croissance en Allemagne cette année. Mais attention, écrivent-ils, un Brexit qui se passerait mal, eh bien, ça pourrait plonger l'économie allemande dans la récession. Un exemple, chaque jour, 150 camions traversent la Manche chargés de pièces détachées, rien que pour les 3 usines BMW au Royaume-Uni. Vous imaginez l'impact si le Brexit se passe mal avec ses frontières bloquées ou en tout cas très encombrées.
Donc des perspectives moroses pour l'économie allemande, beaucoup moins pour nous apparemment.
Oui, alors nous on souffrirait aussi du Brexit si ça se passe mal, ça pourrait nous coûter 0,6 points de croissance, mais en tout cas en attendant l'INSEE revoit ses prévisions dans l'autre sens, à la hausse au premier semestre, malgré l'impact de la crise sociale. Alors, ne nous emballons pas, le gouvernement prévoit pour l'ensemble de l'année une croissance de 1,4%. Ça n'est pas mirifique. Je rappelle d'ailleurs que le budget prévoyait 1,7. Mais enfin, nous ferons presque deux fois mieux que l'Allemagne et mieux que la moyenne de la zone euro.
Ça n'est pas mirifique, dites-vous, mais vous l'expliquez comment ?
En fait, on a mis de l'argent dans l'économie. Emmanuel Macron fait une politique keynésienne, une politique de soutien à la demande. Les mesures à plus de 10 milliards d'euros qui ont été prises pour répondre à la crise des gilets jaunes soutiennent l'activité. Elles sont financées accessoirement, essentiellement par de la dette. Ça, c'est le point noir. Les entreprises aussi ont joué le jeu. Vous l'avez dit, la prime Macron défiscalisée a bénéficié à plus de 2 millions de salariés. Ça n'est pas rien. Voilà pourquoi l'économie française résiste mieux. Résiste parce qu'autour de nous, donc j'ai cité l'Allemagne qui craint la récession, mais l'Italie est déjà en récession, donc vous le voyez, le paysage n'est pas rose du tout. Il y a une petite exception, ça va vous faire plaisir, c'est la Grèce.
Ah bon ?
2,5% de croissance cette année. C'est la renaissance de l'économie grecque, on en reparlera un jour, mais c'est une économie qui revient de très loin.
Comme le phénix qui renaît de ses cendres. Merci Nicolas Barré pour l'édito Écho tous les jours sur Europe 1.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Enquête ce matin sur la schizophrénie, cette maladie psychiatrique qui touche 660 000 personnes en France.
La schizophrénie, une maladie qui fait peur, surtout parce qu'on la connaît mal. Elle est régulièrement associée à des faits divers tragiques, quand ils font la une des médias. Et on en parle ce matin à l'occasion des journées de la schizophrénie, une semaine entière pour sensibiliser les Français à cette pathologie. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour.
Spécialiste santé à Europe 1. Pour que quelque chose ne nous effraie pas, il faut le comprendre. Alors justement, qu'est-ce que la schizophrénie ?
Alors c'est une maladie du cerveau, une maladie mentale qui fait partie de la famille des psychoses. Même si on estime qu'elle est présente dès la naissance, qu'elle est liée en partie à un facteur génétique en général, elle ne se manifeste pas avant l'adolescence en moyenne. La première crise se déclare entre 15 et 25 ans. C'est ce qui est arrivé à Florent, 38 ans. La schizophrénie a fait éruption dans sa vie de façon brutale. Il a eu sa première bouffée délirante dans un bus, il avait 13 ans.
Et là, au fond du bus, il y a une personne que je vois qui rigole avec son copain. Sauf que moi, comme je suis en crise, j'interprète cette personne-là et son sourire comme quelque chose d'agressif. Et après, il y a une voix qui fait dire à cette fille avec une frange, je me souviens très bien, quel con ce type. Et le problème, c'est qu'au bout de 5 minutes, c'est plus juste elle qui parle, en fait. C'est comme un grouillonnement. Et j'ai l'impression que tout le bus et qu'il y a plein de voix, en fait, qui se mélangent, des voix qui résonnent dans ma tête avec un son très grave. Donc je prends peur et je quitte le bus précipitamment alors que je suis pas du tout arrivé, en fait, au collège, quoi. C'est la première crise de bouffée délirante jusqu'au jour où je vais avoir une crise qui va se voir et je vais me mettre en plein milieu de la route avant que l'ambulance arrive, croyant en fait que j'ai des super pouvoirs et que les voitures vont me transpercer finalement sans rien me faire puisque j'ai des super pouvoirs. Sauf que ma maman va être consciente de la chose et va me projeter par terre parce qu'il y a une voiture qui va arriver et elle m'a sauvé la vie ce jour-là et c'est bizarre parce que moi je m'en souviens pas.
Alors c'est typiquement dans ces situations-là que ces malades font peur parce qu'ils peuvent mettre leur vie en danger et parfois celle des autres.
Son témoignage est saisissant parce qu'il en parle avec beaucoup de recul. Mais on a tous entendu ou lu une histoire d'un patient atteint de schizophrénie et qui tue dans des accès de crise violente.
Alors oui, même si ça fait la une des journaux, en réalité c'est rarissime. La plupart du temps, la plus grande des souffrances, c'est eux qui la portent. Sentiment de honte, repli sur soi. Imaginez, vivre avec des hallucinations, c'est un véritable cauchemar. Et puis, c'est aussi une une maladie qui isole. Certains malades finissent seuls, non diagnostiqués, et ce sont ceux-là qu'on croise parfois dans la rue. Vous savez, c'est ce SDF qui hurle en bas de chez vous et ces patients oubliés, c'est aussi ce qui alimente nos peurs.
Est-ce qu'on peut guérir de la schizophrénie? Au moins, est-ce qu'on peut contrôler sa maladie?
Alors, guérir jamais, mais beaucoup, beaucoup parviennent à stabiliser
leur schizophrénie.
On ne guérit jamais. Non, guérir pas, mais on peut être stabilisé. La moitié des malades y arrivent et ont une vie normale. C'est ce qui est arrivé à Florent, vous venez de l'entendre. Aujourd'hui, il gagne sa vie comme aide-soignant, mais il fait aussi plein d'autres choses. Il a écrit deux livres, il fait beaucoup de sport. Bref, il a une vie comme vous et moi.
Mais comment il a fait justement pour maîtriser sa maladie en arriver là?
Eh bien, Florent, il prend un traitement tous les jours depuis des années, un médicament qu'on appelle antipsychotique qui agit directement sur son cerveau. Grâce à lui, il n'a plus aucune hallucination. Cela fait 14 ans qu'il n'a pas fait la moindre crise. Par contre, même si lui, il supporte bien ce traitement, ça reste un traitement assez lourd avec pas mal d'effets secondaires, précise le docteur Marine Rimbaud, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris.
On a différentes molécules, dont certaines qui sont très anciennes et qui font des symptômes un peu type parkinsonien en fait, avec des tremblements, des contractures. Il y a aussi la prise de poids. Ils arrêtent souvent les médicaments à cause justement de cette prise de poids, de la sédation ou des troubles érectiles. Enfin, là, de plus en plus, on a des nouvelles molécules qui, heureusement, donnent moins faim, qui ont moins d'effets secondaires, mais il y a encore beaucoup à faire, je pense, dans la recherche.
Et des progrès, ce serait par exemple trouver une solution aussi aux 20% de patients qui sont résistants au traitement. Il faudrait aussi davantage de lits disponibles, plus de médecins, développer les équipes mobiles, c'est-à-dire ces soignants qui vont suivre les patients une fois rentrés chez eux, notamment pour vérifier qu'ils prennent bien leurs médicaments. Mais pour tout ça, il faut plus de moyens. En psychiatrie, on en manque depuis des années. Agnès Buzyn a annoncé en janvier 40 millions d'euros supplémentaires pour le secteur, mais pour les soignants, c'est insuffisant et ils ne savent pas encore où seront affectés concrètement ces financements.
Les journées de sensibilisation à la schizophrénie, c'est toute la semaine pour mieux comprendre la maladie et lutter justement contre les idées reçues. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, pour ce dossier signé. Europe 1 va plus loin.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le 39-21 ou sur les réseaux sociaux, toujours hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
L'innovation du jour avec vous, Anis Mbida, bonjour.
Bonjour Nikos.
Vous allez changer la vie des Français ce matin?
Changer leur vision, parce qu'en fait ce sont des lunettes qui changent automatiquement de correction en appuyant sur la branche. Comme ça on évite de jongler avec plusieurs paires.
Des lunettes comme les miennes parce que je ne vois plus de près à mon âge.
Exactement,
c'est ça?
Exactement.
Bon, vous nous dites tout juste après ça. Bah, merci. Et pour nos auditrices et auditeurs,
bon réveil avec Nikos Aliagas
sur Europe 1. C'est le printemps.
Il est 7h24. Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anis Mbida, Nikos.
Vous vous réveillez peut-être, vous êtes déjà au travail, peut-être que vous essayez de lire le journal et vous ne voyez pas de près, peut-être parce que c'est l'âge et vous avez des lunettes de lecture. Parfois, vous les cassez, vous les trouvez. On a trouvé quelque chose pour vous. Enfin, quand je dis on, c'est Anis Mbida. De quoi on parle?
Eh bien, on fait des lunettes qui basculent automatiquement sur commande de la vision de près à la vision de loin. Donc, on fait tap-tap sur la branche et on a des lunettes de lecture.
Tap-tap, vous dites?
Tap-tap, sur la branche, directement. Okay. Et on fait une tap-tap une deuxième fois sur la branche et on retrouve ces lunettes traditionnelles.
Pas
donc
mal.
C'est beaucoup plus confortable que les verres progressifs. Je ne sais pas si vous en avez déjà essayé, des verres progressifs. Mais c'est assez difficile de s'habituer parce qu'il faut regarder dans une zone très précise du verre pour voir de près et dans une autre pour voir de loin.
Ou alors mettre des lentilles progressives, ça existe.
Oui, ça existe aussi, mais c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Donc parfois, c'est difficile de descendre les escaliers ou de faire ses lacets parce qu'il y a des zones qui sont un peu floues, il y a des déformations, on a du mal à apprécier les distances. Eh bien, avec ce système, on va activer la vision de près uniquement quand c'est nécessaire.
Et comment ça marche, tap-tap?
Il y a une batterie dans la branche, un petit bouton sur la branche et des cristaux liquides dans le verre qui vont se réorienter dès qu'on les active et comme ça changer la correction. En fait, c'est comme si on avait des verres double foyer sur demande. Ça s'appelle Touch Focus et ça a été mis au point par des Japonais de Mitsui Chemical.
Ouais, des amis. Ça coûte cher?
C'est assez cher. C'est le prix d'une très belle monture et de verres ultra haut de gamme. Donc, on n'est pas loin de 1 800 €. Donc, mieux vaut éviter de s'asseoir dessus.
Et on rappelle que les verres progressifs ont été inventés par des Français. Oui, c'est Essilor qui a inventé ce concept et aujourd'hui la France est l'un des pays où l'on en prescrit le plus. Merci Anis Mbida pour l'innovation du jour.
Et l'innovation du jour avec EDF, bâtiment durable, éclairage intelligent, mobilité électrique. Avec EDF, devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, dans 2 minutes tout pile même. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Pas besoin de lunettes magiques pour Laurent Cabrol. Il regarde le ciel, il sait ce qui va se passer.
En tout cas, c'est du tap-tap modéré.
parce que qui veut voyager loin menace sa monture.
Donc on fait l'ensemble. Oh, oh, oh,
c'est le printemps qui vous donne cette inspiration.
Non, on s'amuse un peu. Alors, quel temps fera-t-il aujourd'hui? Tiens, bonne question.
Oui,
sur des régions comme la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais, la Loire-Atlantique, ce sont des brouillards. Pas des brouillards, mais je veux dire des brumes, parce que les visibilités se situent entre 800 et 900 mètres, donc c'est quand même très loin. Et ensuite, vous aurez des éclaircies dans ces régions. Du Poitou-Charentes au Val-de-Loire, la région parisienne à la Champagne et aux Ardennes, du beau temps nuageux, c'est ainsi qu'on peut le qualifier, car l'impression sera fortement agréable. Et puis il fera beau, très beau, Lorraine-Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Massif central dans son ensemble, le sud-ouest dans son ensemble, c'est-à-dire Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays Basque, la région Rhône-Alpes, le bassin méditerranéen, tout cela avec un peu de vent quand même en Méditerranée, 50-60. Attention, ce matin il fait froid mes amis, oui. On se couvre, moins 4 Châtillon, moins 3 sur Seine, moins 3 à Nancy et Saint-Étienne, moins 2 à Strasbourg, 0 à Bourges, 2 en banlieue parisienne, 3 à Lyon, et puis qu'y a-t-il encore, 4 à Caen et 6 à Paris, et dans l'après-midi, ça va remonter, chouïa, entre 13 et 16 degrés, pas plus.
Merci, cher Laurent Cabrol. À tout à l'heure pour un autre point météo sur Europe 1.
À suivre, Nikos.
Jean-Michel Apathy, tient la presse, titre ce matin, Le Parisien aujourd'hui en France. Castaner se défend et coupe des têtes. On écoutera son analyse politique. 7h43, Axel de Tarlé, record battu pour l'éolien jeudi dernier. Il a représenté 18% de l'électricité qu'on a consommée en France. 7h45, comment lutter contre les déserts médicaux en France? Des députés veulent obliger les jeunes médecins à s'y installer. Hors de question, nous dira le patron des facs de médecine. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes le mercredi 20 mars et il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Céline Kallmann pour le journal de 7h30. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Un geste vécu comme une provocation extrême et qui a choqué, effrayé les participants à une réunion publique à Saint-Denis lundi soir. Tariq Ramadan s'est invité à une réunion sur les violences faites aux femmes. On ne l'avait pas vu en public depuis sa libération à la mi-novembre. Tariq Ramadan est soupçonné de viol en France et en Suisse. Anaïs Bourdet, l'une des oratrices, raconte comment la présence de l'islamologue a paralysé la salle.
Voilà, il entre dans la salle et puis il s'installe au deuxième rang dans le public. Et puis là, du coup, c'est un petit peu la panique générale pour tout le monde, puisqu'on s'y attendait évidemment absolument pas. Du coup, on s'est concerté entre nous. Certaines voulaient rester, certaines sont vraiment parties, ce que je comprends absolument, puisque finalement, il y a aussi des victimes de violences sexuelles et sexistes parmi le public, mais aussi parmi les participantes. Il n'est pas jugé et on est dans un espace public dans lequel il a le droit d'être. Donc, ce qui a été décidé finalement, c'est de lui demander de s'en aller, en fait, de lui faire comprendre que sa présence c'était absolument pas désiré et très malvenu. Finalement, il n'est pas parti. C'est forcément un acte de provocation. On se dit, encore une fois, il y a la présomption d'innocence, mais quand on a autant d'accusations sur le dos, se pointer à un événement qui va parler de violences faites aux femmes, de violences notamment sexuelles, c'est forcément générateur de tension. Enfin, ça ne peut pas être autrement. Donc, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être une venue complètement intéressée par le sujet du débat, quoi.
Anaïs Bourdet avec Jeanne Bergaoui.
Et notez que Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sera l'invitée d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1.
Ils encourent 10 ans. Le procureur a requis ces 6 mois de prison ferme à l'encontre de 2 activistes antispécistes poursuivis pour avoir dégradé des boucheries et commerces des Hauts-de-France ces derniers mois. Jugement mis en délibéré le 8 avril. Laurent Rigaud, le président du syndicat des bouchers du Nord, espère un jugement à la hauteur des préjudices et pertes subies.
Bien sûr, on peut se dire que les sanctions à venir ne sont pas à la hauteur des 10 ans qui risquent. J'espère quand même qu'ils iront un petit peu en prison pour comprendre, surtout pour les prochains, parce que j'espère que ça va s'arrêter maintenant.
Les regrets, les excuses, le fait de dire on n'avait pas conscience des conséquences?
Alors j'y crois pas trop. Ils n'ont pas envie d'aller en prison, donc voilà, ils ont bien été préparés par leurs avocats. Néanmoins, on va attendre. Voilà, si ça s'arrête, s'ils ont compris le message des artisans bouchers et des alimentaires, si ça s'arrête, on a réussi. Et moi, j'aurais préféré clairement qu'on leur annonce qu'ils vont aller passer 2-3 mois en prison. Et là, j'ai un doute que ça va se passer comme ça. Nous, on ne cherche pas la bagarre avec personne, mais néanmoins, si jamais ça devait recommencer, on utilisera nous aussi des moyens de communication qui sont autres que ce qu'on a déjà fait. On espère que ça va s'arrêter.
Laurent Rigaud avec Lionel Gougelot. Christian Estrosi est inquiet pour sa ville. Il a demandé hier au gouvernement d'interdire les manifestations de gilets jaunes prévues à Nice le week-end prochain. Il s'est entretenu hier soir avec Édouard Philippe et Christophe Castaner. Christian Estrosi sera en direct dans le journal de 8h sur Europe 1. Hier, le ministre de l'Intérieur s'est expliqué devant les sénateurs. Il devra aussi être auditionné mercredi prochain par la commission des lois de l'Assemblée nationale après le saccage des Champs-Élysées.
Une semaine après le naufrage du Grande America, les opérations anti-pollution se poursuivent dans le golfe de Gascogne.
Question, faut-il craindre l'état des autres porte-containers du même armateur? La compagnie Grimaldi Lines, on apprend que plusieurs autres navires ont déjà été mis à l'arrêt pour des défaillances, mais continuent quand même de naviguer. L'association de défense de l'environnement Robin des Bois exige le renforcement des contrôles. Théo Manval.
Ils s'appellent Grande Brasil, Grande Nigeria ou encore Grande Roma. Ces porte-conteneurs de la compagnie Grimaldi Lines font des allers-retours entre l'Europe et l'Afrique. Ces dernières années, ils ont été épinglés dans plusieurs ports pour des défaillances de sécurité. Deux d'entre eux arrivent en ce moment au Havre. L'association Robin des Bois demande donc à la France de les faire inspecter d'urgence. La porte-parole, Charlotte Nittard.
Le Grande Nigeria, il a été détenu à Hambourg l'année dernière pendant 4 jours pour 13 déficiences. Les équipements électriques qui n'était pas aux normes, et les équipements de lutte contre l'incendie. Il n'a pas été inspecté dans un port européen depuis le mois de juillet dernier.
Autre navire qui pose question, le Grande Brasil. 70 défaillances de sécurité en 15 ans, c'est assez conséquent, glisse un connaisseur du secteur. L'association Robin des Bois met donc en garde contre le risque d'une nouvelle avarie qui pourrait potentiellement causer un naufrage similaire à celui du Grande America. Et même si les contrôles effectués dans les ports européens sont parmi les plus poussés au monde, la préfecture maritime de l'Atlantique assure qu'elle partage ses préoccupations. Elle doit recevoir les militants associatifs dans les jours qui viennent.
Théo Manval pour Europe 1. Si votre enfant entre bientôt au lycée ou qu'il y est déjà, vous allez forcément vérifier si l'établissement est performant ou s'il a une valeur ajoutée. Le ministère de l'Éducation communique aujourd'hui l'ensemble de ses données sur les résultats du bac de l'année dernière. Le cardinal Barbarin va se mettre en retrait de ses activités au diocèse de Lyon. Hier, le pape François a refusé sa démission.
Peut-être que vous vous préparez à partir, vous êtes dans la salle de bain. Écoutez bien ce constat, assez étonnant, il faut bien le dire. Un quart des Français ne se brossent pas les dents.
Oui, on devrait en principe le faire au moins 2 fois par jour. Question d'hygiène. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas juste une question de mauvaise haleine. Il faut le souligner, une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner de gros soucis de santé. Les précisions du docteur Christophe Lecart, chirurgien dentiste.
Être en bonne santé bucco-dentaire, c'est pas simplement ne pas avoir de caries et ne pas avoir de maladies gingivales. C'est garantir sa bonne santé générale parce qu'il y a une véritable incidence des maladies dentaires au niveau général. Si vous avez une carie qui n'est pas correctement soignée, eh bien, les bactéries présentes dans votre bouche vont pouvoir se greffer n'importe où dans votre organisme par l'intermédiaire de la circulation générale. Et c'est bien connu des sportifs de haut niveau. On peut avoir des tendinites qui ont pour origine une carie dentaire qui n'est pas correctement soignée. Le brossage, c'est 2 fois par jour, matin et soir, avec une brosse à dents souples et un dentifrice fluoré.
Docteur Christophe Lecart avec Sophie Echen.
Vous êtes sûr? Un quart, c'est beaucoup, un
oui,
quart des Français.
Oui, c'est énorme.
Non, mais ça veut dire concrètement qu'1,25 des gens qui sont dans le studio ne sont pas brossés les dents. C'est pas brossé les dents.
C'est pas moi.
On va dénoncer, moi. On va dénoncer,
ah, moi.
Merci Céline Kallmann, le journal de 7h30 avec vous tous les jours.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Jean-Michel Apathy, vous allez parler du ministre de l'Intérieur ce matin.
Oui, alors du ministre de l'Intérieur qui reste ministre de l'Intérieur et du préfet de police qui lui est limogé puisqu'il va être remplacé ce matin en Conseil des ministres. Et on va se demander si c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça.
Axel de Tarlé.
Jeudi dernier à 14h30, les éoliennes ont produit en France autant d'électricité que 12 réacteurs nucléaires.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, il y avait beaucoup de vent, du coup les éoliennes ont tourné à plein régime.
Bon vent avec Apathy et Tarlé, c'est dans un instant sur Europe 1, à tout de suite.
Excellente matinée, les 7h36. Il est 7h38, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et ce matin, au Conseil des ministres, Michel Delpuech, préfet de police de Paris, sera remplacé par Didier Lallement. Michel Delpuech paye un peu les saccages survenus samedi dernier sur les Champs-Élysées. Est-ce que ce limogeage, Jean-Michel Apathy, est justifié?
Oui, 1000 fois oui. Alors, c'est pas moi qui le dis. Il faut écouter Christophe Castaneri dans une interview hier matin sur France Inter. Et là, on se dit vraiment, Michel Delpuech, nul. Alors d'abord, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a commencé par expliquer qu'il n'avait pas appliqué les consignes pour l'utilisation des forces de l'ordre, donc limogé, d'accord. Mais surtout, Christophe Castaner racontait 2 histoires à propos des LBD, vous savez, les fameux lanceurs de balles de défense, qui sont 2 histoires sidérantes. On savait déjà, on l'avait appris dimanche, que les policiers qui avaient des LBD avaient été dotés de munitions courtes. Alors c'est de la technique, mais c'était des munitions moins efficaces que les munitions traditionnel. Alors, le jour où on attendait beaucoup de casse, doter les policiers de munitions moins performantes, c'est quand même curieux. Et Christophe Castaner a expliqué hier que c'est un membre de l'état-major de la préfecture de police qui en a décidé ainsi avant la manifestation de samedi. Et, alors là, moi j'en suis tombé de ma chaise quand je l'ai entendu, le préfet de police n'était pas au courant. Alors un préfet de police qui n'est pas au courant de ça, quand même, effectivement, il n'est pas très bon. Et puis Christophe Castaner a raconté une deuxième anecdote. C'est Christophe Castaner qui la raconte, c'est pas moi. Hein. Puis c'est sur Internet, ça. Il dit, dimanche matin, j'étais sur le terrain, je croise un policier qui me prend à part et qui me dit « Ah, c'est dommage, monsieur le ministre, vous avez donné des consignes restrictives pour l'utilisation des LBD samedi. » Et, dit Christophe Castaner, je suis très étonné parce que moi, j'ai donné aucune consigne de ce type. Alors, des gens se disent, disons, ça marche bien, le ministère de l'Intérieur. Et alors, raconte Christophe Castaner, j'ai enquêté, donc dimanche, après la manif, hein, c'est un peu comme les carabiniers qui arrivent en retard, et j'ai découvert qu'il y avait une consigne à la préfecture de police d'utilisation restrictive des LBD, et Michel Delpuech n'était pas au courant. Alors, effectivement, si Michel Delpuech, il savait rien de ce qui se passait à la préfecture, il vaut mieux en changer.
Qui savait, alors ?
Mais, alors, je ne sais pas qui savait. Mais en même temps, Christophe Castaner, il ne savait rien non plus. Qui c'est le patron de l'administration ? C'est Christophe Castaner. Et Christophe Castaner, il fait l'aveu qu'il ne sait rien de ce qui se passe à la préfecture de police. Il n'y a pas un gradé, un responsable. Il y a deux décisions crétines qui sont prises avant la manifestation. Et il n'y a personne qui alerte le cabinet du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'a aucun correspondant à la préfecture de police. Il ne se parle pas entre le cabinet du ministre de l'Intérieur et la préfecture de police. On se rend compte, en fait, quand on écoute Christophe Castaner hier, que peut-être parmi toutes les administrations françaises, celle de l'Intérieur est peut-être la plus mal gérée. Et dans la période actuelle, c'est quand même un problème. Alors le bilan des courses de samedi, c'est quoi ? Le préfet de police est remplacé et Christophe Castaner reste ministre de l'Intérieur. Mmh. Eh bien, on peut se poser la question ce matin de savoir si c'est un bon bilan ou pas. Moi, personnellement, j'en suis pas sûr.
Jean-Michel Apathy, son point de vue quotidiennement sur Europe 1. Ça vous fait sourire, Axel de Tarlet ?
Non, mais c'est vrai que c'est assez effarant, cette histoire de Christophe Castaner.
De bureaucratie ou d'absurdité.
Avec un policier qui lui dit « Pourquoi vous nous avez donné l'ordre de ne pas utiliser les LBD ?» Oui. Ouais. Christophe Castaner qui apprend le truc.
Expliquez-nous pourquoi Axel de Tarlet, jeudi dernier, 18% de l'électricité du pays, celle qu'on a consommée, venait de l'éolien. Parce que là, c'est un record.
Voilà, c'est un record. Bah, écoutez, jeudi dernier, Laurent Cabol vient encore de me le confirmer. Il y avait beaucoup de vent et il y avait un vent idéal. Parce que vous savez, les éoliennes, il faut du vent, mais pas trop. Au-delà de 100 km/h, pour ne pas abîmer les éoliennes, on les bloque. Donc vous voyez, là, il y avait un vent idéal sur les côtes, à l'intérieur des terres. Ce qui fait que les éoliennes ont fonctionné à 80% de leur capacité de production. Mmh. Ce qui est énorme. En général, sur l'année, les éoliennes ne fonctionnent qu'à 20% de leur capacité. Vous voyez, c'est assez peu. C'est le problème de ces énergies intermittentes.
D'accord.
Et donc, jeudi dernier, à 14h30, situation idéale. Et donc, les éoliennes ont assuré à elles seules 18% de la consommation d'électricité de la France. C'est-à-dire qu'elles ont produit autant d'électricité, ces éoliennes, dont on se moque souvent. Mmh. Elles ont produit autant d'électricité que 12 réacteurs nucléaires. Alors, le problème, c'est que c'est un pic d'électricité. Voilà, ça s'est produit jeudi à 14h30. C'est le problème de ces énergies propres, hein, le solaire, le vent, c'est qu'elles sont intermittentes. Or, notre consommation d'électricité,
Elle est régulière.
On veut de l'électricité tout le temps, même quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, Axel de Tarlet, que l'éolien est condamné à rester une énergie d'appoint ?
Oui, et c'est très bien ainsi, parce que ce vers quoi il faut aller, c'est un mix. Il faut diversifier, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Alors, c'est un objectif, parce que vous savez, pour l'instant, en France, le nucléaire est omniprésent. Le nucléaire, c'est 72% de la production d'électricité française, alors que les éoliennes, c'est à peine, sur l'ensemble de l'année 2018, c'est très faible, hein, c'est à peine 5%, et le solaire, c'est encore moins, on a eu les chiffres, c'est moins de 2% le solaire.
Qu'est-ce qu'on exporte comme électricité ? C'est le nucléaire.
On vend du nucléaire. Mmh. Mais si vous regardez chez les étrangers, en Allemagne, par exemple, l'éolien, c'est 20%. On n'est plus dans le symbolique. Le solaire, c'est 8%. Alors pourquoi est-ce que chez nous, c'est aussi peu ? Y a un phénomène bien connu chez nous. Les éoliennes ont un ennemi, c'est ce que les Anglais appellent le NIMBY. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le NIMBY.
Expliquez-nous.
C'est not in my backyard,
pas dans mon jardin.
C'est-à-dire que tout le monde veut des éoliennes, mais pas à côté de chez soi.
Chez le voisin.
Alors vous savez comment ils ont fait les Allemands pour s'en sortir ?
Expliquez-nous.
Et ça, c'est ce qu'on va faire en France.
Allez-y.
C'est qu'ils ont associé les populations locales aux gains, au bénéfice des éoliennes.
Ils sont intéressés, en fait, les locaux.
Voilà, et bien ça, quand on vous est intéressé financièrement, ça permet de supporter les nuisances et les pales qui tournent.
In my backyard.
In my backyard.
Please, welcome.
Juste à côté.
C'est ça.
Voilà,
with
the money.
Merci Axel de Tarlet, quotidiennement sur Europe 1 pour le Zoom Echo.
Et pour Nico Saliagas
sur Europe 1.
Vous nous écrivez avec le hashtag Europe 1. Il est 7h44.
Comment lutter contre les déserts médicaux en France ? C'est un vrai sujet. Les députés veulent obliger les jeunes médecins tout juste diplômés à aller s'installer de facto là où il n'y a pas de structure médicale. Pour beaucoup, c'est du bon sens. Mais vous allez voir ce matin, le patron des facultés de médecine, Jean Sibilia, lui est contre et il nous explique pourquoi dans quelques instants. Bon réveil à tous sur Europe 1.
les principaux titres à retenir ce matin, Nicolas Saliagas.
Le maire de Nice, Christian Estrosi, réclame au gouvernement l'interdiction des manifestations prévues dans sa ville le week-end prochain dans le cadre d'un appel national des Gilets jaunes. Sa demande va être examinée. Christophe Castaner a été auditionné pendant 3 heures par les sénateurs hier. Il le sera aussi par la commission des lois de l'Assemblée nationale mercredi prochain, et ce après le saccage des Champs-Élysées. Le parquet de Lille a requis hier 10 et 6 mois de prison ferme à l'encontre de 2 activistes antispécistes. Ils sont poursuivis pour avoir dégradé ou incendié des boucheries, restaurants ou commerces des Hauts-de-France cet hiver. Jugement délibéré au 8 avril. Le cardinal Philippe Barbarin a annoncé qu'il allait se mettre en retraite de ses activités au diocèse de Lyon, malgré le refus du pape François d'accepter sa démission. Il a dit envisager un temps de silence dans un monastère, selon ses termes. C'est le printemps aujourd'hui, le soleil va briller quasiment partout. Mais attention, des températures fraîches le matin. Et cet après-midi, ça remonte jusqu'à 18 degrés.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h. Europe 1. Nico Saliagas, pour lutter contre les déserts médicaux, des députés veulent imposer aux jeunes médecins, tout juste diplômés, d'aller s'installer là où on en manque. Alors que le débat est en cours à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi santé, les patrons des facs de médecine sont contre. Nico, vous recevez ce matin leur représentant, Jean Sibilia, le président de la conférence des doyens des facultés de médecine.
Bonjour Jean Sibilia.
Bonjour Nico.
D'abord un constat. Un désert médical, c'est moins de 250 médecins pour 100 000 habitants, on est d'accord. Ça concerne 8% de la population. Ça veut dire que pour plus de 5 millions de Français, les délais d'attente sont très longs, qu'il faut faire des dizaines de kilomètres pour trouver un médecin, et pour se faire soigner. Le constat, vous le partagez, on est OK.
Le constat est partagé, il y a des déserts médicaux.
Mais pourquoi vous êtes contre d'obliger des médecins spécialistes ou généralistes à aller s'installer là où on en manque? C'est plutôt du bon sens.
Il y a plein de raisons. D'abord, un désert médical, ça n'est pas qu'un désert de santé, c'est un désert de services publics et de services privés. Donc c'est des zones déshabitées. Il faut d'abord redonner du sens, de la vie et une âme à ces territoires, qui sont d'ailleurs ruraux et urbains. Mmh. Ça n'est pas que la campagne, c'est la ville aussi.
Oui, c'est un mythe, la campagne.
Voilà, donc voilà, on ne va pas mettre que des médecins, il faut mettre des services publics, privés. Il faut réhabiter, refaire vivre d'abord ces déserts médicaux.
J'ai quelques propositions, enfin ce ne sont pas les nôtres, hein, ce sont celles de députés qui ne manquent pas d'idées pour forcer la main des jeunes médecins. 1000 euros d'amende par mois s'ils ne commencent pas leur carrière pendant au moins 3 ans dans un désert médical.
Je crois que ce n'est pas l'esprit. On est tous les deux des patients en puissance. On a envie d'avoir une relation de confiance avec le médecin. Comment imaginer qu'on puisse établir cette relation de confiance avec un médecin qu'on force à s'installer dans une zone où il ne veut pas s'installer? Rappelle quand même, nos jeunes médecins font des études longues, compliquées. C'est dur d'être médecin et on le sait peut-être pas assez, mais ils bossent déjà, ils travaillent pendant quelques années pour rendre au service public. Quand ils sont internes, ils travaillent. Mmh. Donc ils rendent déjà un service public pendant de nombreuses années. Donc les forcer à s'installer dans ces conditions, seuls en plus, dans un exercice qui ne revendique pas. Aujourd'hui, nos jeunes médecins ont envie de travailler ensemble, en groupe, avec des soignants, dans des maisons médicales, peut-être dans des hôpitaux de proximité. La démarche est celle-là. Moi je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, et ça n'est pas le seul domaine, mettons un peu de bienveillance dans les relations et surtout dans le domaine de la santé. L'obligation, je crois que ce n'est pas une bonne chose.
Alors, des députés, Jean Sibilia, évoquent aussi l'idée d'aller repêcher les étudiants qui ont échoué de peu aux examens. Ce qu'on n'a pas réussi, à condition qu'ils s'installent dans une zone en tension. Vous en pensez quoi ?
Alors, récupérer des étudiants qui n'ont pas réussi, non. Enfin, on réussit ces études, c'est des études exigeantes, hein, je le rappelle. Hein. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne doit pas être médecin. Il faut des qualités, donc on a réussi, on n'a pas réussi. Je crois qu'il faut raisonner effectivement sur de l'évaluation nouvelle. Vous avez vu, le numerus clausus a été aboli, donc on peut modifier les chiffres.
C'est plutôt une bonne chose pour vous ?
Ah, je pense que c'est une bonne chose, on va le réguler. Ça ne sera pas open bar, hein, je l'ai déjà dit.
Et ça ne sera pas tout de suite.
Voilà, il y a une sélectivité, elle est exigeante, mais on aura des critères de mesure et de choix de nombre de médecins différents. C'est une bonne chose.
Il reste pourtant le problème de la répartition des médecins en France. Hein, je vous montre la carte. Regardez, il y a beaucoup de zones blanches, des déserts médicaux. Et contrairement aux idées reçues, vous l'avez dit, le désert médical, ce n'est pas seulement à la campagne. On voit bien qu'il y a un problème en Mayenne, en Eure, dans l'Ain. On dit quoi à ces Français qui veulent juste se faire soigner? Vous parliez de l'humain tout à l'heure. Mais quand on doit faire des dizaines de kilomètres pour aller faire une consultation, c'est pas facile aussi pour les Français qui nous écoutent.
Absolument. Trouvons des solutions ensemble. Je crois que c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, vous savez, on met en place des mesures à long terme, à moyen terme, à court terme. J'en prends juste 3 pour vous donner des exemples. La mesure à long terme, c'est la disparition du numerus clausus. On va pouvoir augmenter le nombre de médecins, mais ça portera ses fruits que dans 10 à 15 ans. Il y a des mesures intermédiaires. Vous l'avez vu, on crée des métiers intermédiaires, on crée des infirmières de pratique avancée, on fait monter des métiers de soignants dans un dispositif où on sera plusieurs, le médecin ne sera pas seul à soigner les gens, les fameux parcours patients. On a des outils aujourd'hui, dès aujourd'hui. On a de la télémédecine, on a des outils de téléconsultation.
La télémédecine, est-ce que c'est pas une façon de déshumaniser aussi la relation ?
Alors, il y a toujours un médecin derrière la ligne et vous êtes toujours accueilli par un soignant. Mmh. Vous n'arrivez pas seul dans un cabinet, il y a quelqu'un qui vous accueille. Donc évidemment, gardons de l'humain. La médecine, la santé, c'est de l'humain avant tout.
Il n'y a pas un problème avec les jeunes médecins ? Quand on discute avec eux, notamment dans nos reportages, on a entendu pas mal de choses sur l'antenne d'Europe 1. Beaucoup nous disent « je ne veux pas aller dans des spécialités à risque » parce qu'ils ont peur. Je ne veux pas avoir des horaires trop lourds, donc ils ne choisissent pas la médecine générale. Ils se planquent ?
Ah non, ils se planquent pas. On les connaît bien, forcément, puisque voilà, on les aime et on les forme.
Pourtant, on perd 3500 généralistes chaque année.
Mais ça, c'est l'effet de tranche d'âge, en fait. On va remonter, on va essayer de corriger les choses, c'est en cours. Hein. Évidemment, ces jeunes médecins ne se planquent pas. J'ai entendu dire aussi, ils sont intéressés par des zones où on gagne de l'argent, mais évidemment que non. Imaginez-vous, vous engagez dans des études longues, dans un métier aussi difficile, vous avez du sens dans votre métier. Donc je crois que c'est des fausses idées, vous voyez.
Contre les déserts médicaux, on peut obliger les médecins à s'installer là où on en manque. Vous vous dites non, on ne peut obliger personne. Est-ce qu'on peut donner par exemple plus de pouvoir aux pharmaciens ?
C'est l'idée que je développais. C'est en cours. Hein. La loi santé évoque ce qu'on appelle le transfert de tâches. Hein. Vous voyez, le pharmacien, dans certaines régions, on peut déjà vacciner. Mmh. Il y a des éléments qu'on peut transmettre. Alors, il faut, n'oublions jamais l'organisation. Le malade a besoin de savoir à qui il a affaire. Chacun son rôle dans les soins, chacun son rôle, mais on peut partager des choses et ça se fera dans l'avenir de cette façon.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la relation patient-médecin ?
Il manque, je crois, avant tout, cette relation de confiance. Et dans la relation de confiance médecin-patient, voyez, il faut la réhumaniser et il faut créer des conditions de confiance. Et pour être en confiance, il faut choisir son médecin. Donc je pense que c'est très important que dans la condition actuelle, on ne peut pas obliger. Laissons les médecins, c'est un principe général, la liberté d'installation et la liberté du patient de choisir son médecin,
quand on a
c'est
le choix.
Fondamental.
Quand
mais
on peut choisir,
le choix.
Quand il y a un médecin dans la région.
Eh ben, il faut qu'il y en ait, il faut qu'on se débrouille pour qu'il y en ait.
Merci Jean Sibilia, président de la conférence des doyens des facultés de médecine, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Merci.
Et beaucoup de réactions hein, sur ce sujet, Nico. Sur Twitter, on a Claire qui nous dit il faut des propositions pour lutter contre la désertification, peut-être des maisons de santé en milieu rural dont vous parliez
tout à
l'heure.
Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Sylvain ?
Bien sûr, mais ça existe. Hein. Enfin, j'ai pas le temps de développer tout ce qui a été fait, mais il y a beaucoup de propositions et ça portera ses fruits dans les prochaines années.
Merci, docteur.
Continuez à réagir avec le hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, bonne nouvelle, l'économie française résiste mieux que prévu à la crise. L'INSEE tord le cou à nos idées reçues, les détails dans le journal de 8h. Et puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas, portrait de la nouvelle terreur du Parlement britannique, l'iconoclaste John Bercow.
A tout de suite avec Nico Saliagas sur Europe 1, il est 7h54. Il est 7h56, Nico Saliagas, c'est l'heure de la petite histoire du jour.
Et on l'attend avec impatience, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Ce matin, vous nous dites qu'avec le Brexit, Jean-Philippe, une star est née.
Oui, je l'adore. Il s'appelle John Bercow, quinquagénaire, truculent, virevoltant, président de la Chambre des communes. Vous l'avez sans doute aperçu, c'est lui qui distribue la parole lors des débats agités, forcément agités en ce moment à Londres. Alors, il y a deux choses qui frappent instantanément chez ce personnage. D'abord, ses cravates. Comment vous dire ? Barioler les cravates. Vous savez, la cravate du type qui se dit « Je vais passer sur les chaînes du monde entier, je me dois de marquer les esprits au milieu du chaos ». Le chaos, justement, bah, c'est l'autre signature de John Bercow, cette façon qu'il a de rappeler à l'ordre l'assistance. « Order », on dit comme ça en anglais, et il le dit vraiment sur tous les tons. Écoutez.
« Order. Zen.
Ça aussi, il aime bien John Bercow. D'ailleurs, il préconise parfois des cours de yoga pour ses collègues. Bref, non. Le président amuse la galerie, oui. Mais il agace aussi les partisans du Brexit qu'il accuse de ne pas être neutre dans cette affaire. La preuve, on l'a vu récemment dans une voiture avec un autocollant sur lequel on pouvait dire « Bollocks the Brexit ». Mon éducation m'interdit de traduire littéralement ce juron. On dira peut-être « Zut, le Brexit,
ce
ça
soft.
Passe ».
Voilà.
Mais pour sa défense, John Bercow a répondu « C'est pas ma voiture, c'est celle de ma femme. Elle a le droit d'avoir ses propres opinions. » Point. Voilà, faut pas trop le chercher, John Bercow. Assez rock'n'roll finalement, et vous savez quoi ? Les Anglais, on les aime aussi pour ça.
On devrait essayer ça chez nous dans les débats animés de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas de passer un peu de musique punk, de Clash. En fait, si je traduis, c'est « Dois-je rester ou partir ?»
C'est un bon résumé du Brexit, non ?
Nous, on va rester. Allez. Merci Jean-Philippe Ballas.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Mon cher Laurent Cabrol, le printemps, c'est aujourd'hui.
Voilà, le printemps est arrivé, vive le printemps, et c'est vrai qu'il débute aujourd'hui. Nos amis, d'ailleurs, vont le savourer, parce qu'il doit faire beau, et un temps agréable, un petit peu frais quand même, puisque ce matin, nous avons des gelées, hein, n'oublions pas. En Sologne, il faisait moins 4, il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, et à Paris, à peine 4-5 degrés en banlieue, et 3 degrés dans la région de Lyon, 0 à Bourges, et moins 2 à Strasbourg, pour ne citer que ces villes. Alors, en ce qui concerne la couleur du ciel, ça sera pas clair clair partout, hein, non. C'est un dégradé. Plus nous allons vers la Manche, et plus nous avons des nuages ou des brumes. Ça, c'est une certitude. Après, Poitou-Charentes, Val-de-Loire, région parisienne, Champagne-Ardenne, c'est un temps, disons, légèrement nuageux, mais l'impression de beau temps prévaudra. Puis ailleurs, ce sera du grand beau, surtout les deux tiers sud de la France. Les températures maximales, c'est à Marseille qui fera le plus doux, avec 18 degrés, 17 à Nice, 16 à Bordeaux, 15 à Lyon, Paris et Poitiers. Nous aurons 14 degrés à Caen, à Dijon, à Lille, à Biarritz et Colmar, 13 à Clermont-Ferrand et Belfort, et là où il fera le moins doux, le plus frais, 12 degrés à Langres, et dans une ville du Doubs qui s'appelle Pontarlier, là-bas.
Pontarlier, enfin. Tiens, je lisais dans la presse ce matin qu'une exposition est proposée jusqu'à dimanche, une centaine d'affiches de films dans lesquels Lino Ventura a tourné, tiens, Pontarlier, on fêtera les 100 ans de Lino Ventura le 14 juillet prochain.
Une très bonne idée, ça.
Mais il y aura l'affiche des Tontons Flingueurs.
Oui.
Vous en faisiez partie de la bande ou pas?
Vous auriez pu.
Tiens, à Pontarlier, on prend un petit. À l'heure de l'apéritif, on prend un petit pont. Ça s'appelle un pont. Oui. C'est un apéritif anisé qui s'appelle le pont et qui est fait uniquement à Pontarlier.
Un pont Tarlier, avec modération. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout à l'heure pour un autre point météo.
Et on est bien sur Europe 1, ce premier jour de printemps. Bienvenue à vous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour David Doucan.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La ville de Nice sera-t-elle la cible des casseurs samedi prochain? C'est ce que redoute le maire Christian Estrosi. Il interpelle le gouvernement. Il sera avec nous en direct dès le début de ce journal. Vous souvenez-vous des 10 milliards d'Emmanuel Macron? Le président les avait lâchés début décembre dans l'espoir de calmer la colère des gilets jaunes. Eh bien, selon l'INSEE, ce coup de pouce au pouvoir d'achat booste la croissance. La grève du zèle des douaniers continue. Les file d'attente aussi. Et les routiers en ont assez. Ils organisent une contre-mobilisation. Reportage à suivre.
À 8h12, l'analyse de l'actu internationale avec Vincent Hervouette. Le Kazakhstan, 30 ans après, Nazarbayev lâche le pouvoir. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Elle organise ce soir un débat sur la laïcité, un sujet qui divise son parti, La République En Marche.
Europe 1.
La ville de Nice sera-t-elle à son tour le théâtre des violences samedi prochain? Des gilets jaunes ont lancé un appel ciblant votre commune, Christian Estrosi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Nice et vous demandez, Christian Estrosi, au gouvernement que tout rassemblement soit interdit chez vous ce samedi.
Oui, le gouvernement a pris des décisions d'interdiction pour le cœur de Paris, les Champs-Élysées, mais aussi pour Bordeaux et pour Toulouse. Et vu l'appel qui est lancé sur les réseaux sociaux, semble-t-il d'ailleurs plus par des individus radicalisés se revendiquant des gilets jaunes que le mouvement initial des gilets jaunes, eh bien je demande au gouvernement de prendre les mêmes dispositions d'interdiction pour le cœur de Nice samedi prochain.
Mais vous avez déjà échangé avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur à ce sujet. Quelle est leur réponse?
J'ai eu le ministre de l'Intérieur, notamment hier soir, où je m'en suis entretenu longuement. Nous devons, avec Matignon, avoir aussi des réunions et des échanges ce matin. Le gouvernement, en tout cas, est préoccupé et attentif et semble prêt à prendre des dispositions assez fermes. En tout cas, moi, je les demande, je les exige même.
Oui.
Pour moi, la cohésion économique, sociale, le respect de l'intégrité des biens et des personnes dans notre cité, c'est une exigence. Nous sommes dans un état de droit. Manifester est un droit, certes, mais casser est un délit. Et lorsque nous voyons l'évolution des choses depuis quelques semaines dans notre pays, avec ces violences inacceptables, il est temps maintenant qu'on passe à une action à un degré bien supérieur.
Merci à vous, Christian Estrosi, maire de Nice. On vous a entendu. On verra dans les prochains jours si votre demande trouve une réponse favorable auprès du gouvernement. J'ajoute que pour ce 19e épisode du mouvement des Gilets jaunes, plusieurs appels ont été lancés pour manifester aussi à Toulouse et à Montpellier. Quant à Christophe Castaner, devant les sénateurs, hier, il a révélé que les casseurs avaient pour objectif, samedi dernier, de prendre à nouveau l'Arc de Triomphe. Il a ajouté que les forces de l'ordre les en avaient empêchés.
Les 10 milliards d'euros débloqués début décembre par le président de la République auront eu un effet positif sur la croissance.
Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme l'INSEE dans sa note de conjoncture publiée hier soir. Cet énorme geste visait à calmer la crise des Gilets jaunes, cela n'a manifestement pas suffi, mais en augmentant le pouvoir d'achat de certains Français, l'INSEE anticipe une hausse de la consommation et donc un peu plus de croissance pour le premier semestre 2019. Olivier Samin.
Rien que la prime exceptionnelle, la prime Macron, c'est 1 milliard d'euros versés au mois de janvier à un peu plus de 2 millions de salariés du secteur privé. Certains, les plus chanceux, ont touché 1 000 euros, les autres moins, mais la moyenne est quand même élevée, 450 euros. Cet argent ira-t-il tout de suite dans la consommation ? Peut-être pas, dit l'INSEE, en tout cas pas en totalité. Julie, par exemple, que nous avons rencontrée hier à Paris, préfère réfléchir.
J'ai bénéficié de la prime de 1 000 euros. Donc voilà, j'étais contente quand j'ai appris ça. Mais j'ai rien fait de particulier, j'ai pas fait plus d'achats pour autant pour le moment en tout cas.
Pour la prime exceptionnelle, oui, peut-être. Mais d'autres mesures annoncées au mois de décembre ne passeront probablement pas par la case épargne. L'augmentation de la prime d'activité par exemple, qui bénéficie aux personnes proches du SMIC, a toutes les chances d'être réinjectée très vite dans la consommation.
Olivier Samin et Martin Choc du service économie d'Europe 1.
L'éducation nationale révèle ce matin le palmarès des lycées 2019.
Oui, ce n'est pas un classement, ce sont des indicateurs de résultats qui prennent en compte plusieurs critères. Parmi les meilleurs établissements de l'Académie de Lille, il y a le lycée Vauban qui est situé en milieu rural. Aude Vernuccio vient de joindre son proviseur Didier Riz, qui pense surtout aux collègues, à ses collègues qui sont moins bien classés. On l'écoute.
C'est vrai que les chiffres sont quelquefois un peu décevants. Il suffit qu'on ait une promotion avec quelques élèves qui sont réorientation ou des phénomènes soit d'absentéisme. Puis voilà, on a des chiffres qui descendent.
Ce classement, pour vous, il ne dit pas tout ?
Non, il ne dit pas tout. Il manque la suite du parcours, c'est-à-dire le bac est une étape. Après, il y a Parcoursup, là où on prépare vraiment nos jeunes à réussir leur enseignement supérieur.
Didier Riz du lycée Vauban, joint pour Europe 1 par Aude Vernuccio.
À suivre dans le journal. La grève du zèle des douaniers français continue. Je voulais écourter votre journal.
On va parler
de la grève du zèle des douaniers français et les routiers, eux, en ont assez.
Oui, ils n'en peuvent plus de se retrouver bloqués sur des zones de stockage à cause des files d'attente interminables. Alors ils se mettent eux aussi en colère et organisent des opérations filtrage, comme par exemple lundi soir sur la 16. Reportage Lionel Gougelot.
Tous les jours, à cause de ce mouvement de grève des douaniers, les camions d'Olivier Boulan se retrouvent coincés dans les files d'attente de centaines de poids lourds sur l'autoroute en amont du port de Calais ou du tunnel sous la Manche, pénalisés alors même qu'ils ne se rendent pas en Grande-Bretagne.
Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser à bloquer tout le monde sur la route. Il faut effectuer, comme on dit, un filtrage des personnes qui vont en Angleterre. Aujourd'hui, nous avons des chauffeurs qui font du régional et qui sont restés bloqués plus de 4 heures sur la route parce que on ne leur demande pas où est-ce qu'ils se rendent.
C'est donc pour exiger une autre organisation de la régulation du trafic poids lourd en cas de grève que ces patrons routiers ont mené cette opération filtrage à la frontière franco-belge, des patrons étranglés financièrement comme Sébastien Allan, transporteur à Boulogne-sur-Mer.
Nous aujourd'hui, les entreprises qui travaillent avec le port de Dunkerque, le port de Calais, on estime notre perte à 20% de notre chiffre d'affaires journalier. Ça fait quand même 15 jours que ça dure. Et là, le mouvement des douaniers, ils ont déclaré qu'ils allaient continuer jusqu'au 20. Donc ça veut dire qu'encore une semaine supplémentaire. On ne pourra pas continuer comme ça. Si ça continue, on arrêtera. Donc ce sera du chômage technique ou ce sera peut-être même de la fermeture.
Des transporteurs routiers victimes collatérales d'un conflit gouvernement-douanier, pour l'instant sans solution. À Guivelle de Lionel Gougelot, Europe 1.
Europe 1.
Dans le journal de David Doucan, dans quelques instants, Boeing, un rapport accablant. On sera aux États-Unis juste après ça. À tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nico Seliagas.
La suite du journal avec David Doucan et des nouvelles informations accablantes au sujet du 737 MAX de chez Boeing.
Oui, accablante pour le constructeur lui-même, mais aussi pour les autorités américaines de l'aviation civile. De lourds soupçons pèsent aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles l'appareil a été homologué. Les explications de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
Pour vérifier si le tout nouveau 737 MAX était apte à voler, l'Agence fédérale de l'aviation a délégué une partie de son travail à des ingénieurs de Boeing. Ça peut paraître absurde, mais cet organe public manque tellement de moyens qu'il sous-traite souvent une partie du contrôle d'un nouvel avion au constructeur lui-même. La FAA, c'est son nom, est en outre très liée à Boeing. Elle a même des bureaux dans ses usines de Seattle. Le journal local, le Seattle Times, a enquêté sur ce processus d'homologation et il affirme que des défauts avaient été pointés dans le système de contrôle de vol du 737 MAX, mais que la FAA les a ignorés et a même accéléré la certification du nouveau fleuron de Boeing. Pourquoi une telle précipitation ? Pour des raisons de concurrence, le 737 MAX était la réponse de Boeing au nouvel A320 d'Airbus. Le Seattle Times affirme avoir soumis le résultat de son enquête à Boeing quelques jours seulement avant le crash d'Ethiopian Airlines. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Une page de cinéma maintenant avec un nouveau prodige.
Oui, et avec nous, Mathieu Charrier, notre critique maison. Mathieu, vous n'avez pas l'habitude d'être dans l'emphase, donc je vous crois quand vous nous parlez tout simplement du nouveau Spielberg, Jordan Peele, qui sort aujourd'hui son nouveau film, ça s'appelle Us.
Us au double sens, un nous en anglais, mais aussi United States, les États-Unis. Alors l'histoire, une femme revient dans la maison où elle passait ses vacances enfant. Elle est avec son mari, sa fille, son fils. Un soir, ils entendent du bruit dehors. Une famille est dans l'allée. Qui sont-ils, leur double maléfique ?
Ils pensent comme nous. Ils s'arrêteront que quand ils nous auront tués.
Voilà, comme si une Céline Dacosta, un Nikos Aliagas, un David Doucan nous attendaient à la sortie du studio en combinaison rouge pour nous zigouiller. Aïe, c'est le fameux mythe du doppelganger, explique le réalisateur.
Je pense que ce mythe du doppelganger a toujours été une source de peur pour les gens. Il y a quelque chose de très primaire et de surnaturel dans la sensation de se voir comme ça, de voir son double. Les films d'horreur m'ont toujours permis de canaliser mes propres peurs.
Voilà, Jordan Peele déjà comparé à Stanley Kubrick ou Alfred Hitchcock. Et comme dans Get Out, son premier long métrage, Oscar du meilleur scénario, il livre un film d'horreur ciselé à la mise en scène parfaite avec en toile de fond un message politique.
Fais attention.
Ça donne envie, ça donne envie. Merci à vous, Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1. J'avais prévu une minuscule intervention sur le printemps.
Allez-y.
Cher Nikos, c'est aujourd'hui le printemps, nous sommes le 20 mars. Oui. Mais ce n'est pas tout le temps le 20 mars, parce que le printemps, c'est l'équinoxe. C'est oui. Ce moment où la journée dure autant que la nuit, deux oui. fois par an. Et parfois, c'est le 21 mars, le 19 mars. Ça change en fonction de l'astronomie. Et si vous voulez tout savoir là-dessus, vous allez sur europe1.fr. Il y a un article judicieusement titré.
Il gagne du temps. Hein.
Un article... très très bien titré, qui s'appelle « Pourquoi le printemps tombe cette année le 20 mars et pas le 21 ?»
Voilà. Merci Laurent Cabrol. Merci David Doucan pour le journal de 8h.
À demain.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Et les 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec vous Vincent Herbouet.
On va parler bonjour, du Kazakhstan. Céline, on va parler
bonjour,
du Kazakhstan.
Nikos, bonjour, bonjour aux muets qui sont derrière la vitre du studio.
Toutes les équipes et toute la régie, on va parler d'un homme. Ça faisait 30 ans qu'il régnait sur son pays sans que personne ne le conteste. Eh bien hier, à la stupéfaction générale, le président du Kazakhstan a démissionné.
Oui, son coup de théâtre est aussi soudain qu'un coup d'État. D'ailleurs, Nursultan Nazarbayev aime le théâtre. À Paris, je me souviens qu'il avait planté un dîner officiel où les ministres et la moitié du CAC 40 lui léchaient les pieds pour filer avec son cortège, toute sirène hurlante, au Crazy Horse. Astana, la capitale qu'il a fait construire au milieu de la steppe, est comme un décor posé sur une scène vide, avec des buildings aux formes bizarres. C'est Dubaï, la mer en moins. Alors, qu'est-ce que ce président mettait en scène ? Eh bien, lui-même. Le culte de la personnalité est intense, sa photo partout, son anniversaire jour férié, deux musées à sa gloire. Il est sur les billets de banque, omniprésent, il a même écrit l'hymne national et c'est un artiste qui supporte mal la critique. Il n'y a aucune liberté de la presse. Mais Astana étale aussi la modernité et la richesse. Ce sont des revanches sur les soviétiques qui servaient du Kazakhstan comme dépotoir pour leurs bombes nucléaires et pour leurs dissidents. Et Nazarbayev était l'apparatchik numéro un. Il est resté à la tête de la colonie quand l'URSS a implosé. Il est le premier et le seul président du pays, du moins jusqu'à hier.
Pourquoi a-t-il démissionné, Vincent ?
Mais alors, peut-être qu'il aime les controns, 1989-2019. Peut-être qu'ils ont été réélu pour un cinquième mandat avec un score à l'africaine, il fait un tour de passe-passe à la Bouteflika, il laisse les clés au président du Sénat, mais il continuera à piloter de loin. Il reste le père de la nation avec immunité absolue. Il doit connaître l'ingratitude des peuples. Le mécontentement en effet gronde, la croissance se traîne. Le mois dernier, le président a viré sans crier gare tout le gouvernement. Mais en même temps, et c'est la différence avec l'Algérie, Nursultan Nazarbayev a piloté l'indépendance et surtout surtout le développement du pays. C'est une éponge gorgée de pétrole, une bonbonne de gaz, le premier producteur mondial d'uranium. Et il a géré habilement cette rente. C'est la chance de toute une génération de gestionnaires et d'entrepreneurs qui sont bien formés. Le Kazakhstan est un petit dragon qui compte entre la Chine, la Russie, la Turquie. À Paris aussi, et pas seulement au Crazy Horse. Alors, comme dirait Borat, gloire à la grande nation kazakh.
Et le nouveau président par intérim, à partir d'aujourd'hui, hein, le Kazakh Kassym Jomart Tokayev, a proposé tout de suite de rebaptiser la capitale Astana. Vous savez comment ?
Non.
Avec le prénom de Nazarbayev, Nur-Sultan.
Oui, voilà. Mais c'est une bonne idée parce que Astana, ça voulait dire la capitale. C'était le nom de la ville, juste le nom ça. De la capitale, c'était la capitale.
Et maintenant, ce sera je vais à Nur-Sultan, la capitale du Kazakhstan. Merci pour ce portrait, Vincent Herouet, pour mieux décrypter et comprendre l'actualité internationale.
Bonne journée.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Audrey Crespo-Mara. Salut Audrey.
Bonjour Nikos, bonjour.
Vous recevez qui ce matin ?
Eh bien écoutez, La République En Marche organise ce soir à son initiative un débat sur la laïcité. Et on se demande combien de temps la majorité restera-t-elle encore dans le flou sur la laïcité. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, sera mon invitée.
On a hâte de vous écouter, à tout de suite.
8h15, très belle matinée sur Europe 1. Il est 8h18, Nikos Aliagas.
La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, et votre invitée Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour Audrey.
Après avoir échoué à maintenir l'ordre sur les Champs-Élysées, Christophe Castaner a été attaqué hier par les députés, puis par les sénateurs. Est-il devenu le maillon faible du gouvernement ?
Moi, je ne le crois pas. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis qu'il a été nommé, Christophe Castaner fait un travail colossal avec le secrétaire d'État qui lui est rattaché, Laurent Nunez.
Mais il a échoué ce week-end.
Alors là, il y a un certain nombre de consignes qui n'ont pas été bien appliquées. Il s'en est expliqué lui-même et c'est pour ça qu'il y a eu des modifications dans la chaîne de commandement, de management, si on peut le dire, au niveau de la préfecture de police.
Donc il n'est pas en cause, selon vous ?
Pas du tout.
Au sujet de Christophe Castaner, ce soir, La République En Marche organise à votre initiative un débat sur la laïcité. En février 2018, Christophe Castaner comparait le voile islamique au fichu de nos grands-mères. Aurélien Taché le compare à un serre-tête. Vous pensez que le voile fait la promotion de l'islam politique ? Combien de temps la majorité pourra-t-elle rester dans un tel flou sur la laïcité ?
Alors d'abord, les positions des uns et des autres sont un peu plus nuancées que cela. Aurélien Taché lui-même a reconnu une maladresse dans sa comparaison. En ce qui me concerne, il s'agissait du voile lorsqu'il est utilisé par des responsables politiques. Mais je pense qu'il faut à la fois interroger la liberté des femmes, comme en Iran par exemple ou dans d'autres pays. Et je pense là à Nasrin Sotoudeh, à pouvoir sortir sans voile, sans être condamnée pour cela. Mais dans le même temps, moi je ne fais pas partie des gens qui veulent interdire le voile, ni à l'université, ni dans l'espace public, ni même dans les sorties d'école pour les mères d'élèves.
Et ce flou de la majorité ?
Je crois que c'est pas un flou, justement, chacun est moins caricatural que ce qu'on veut bien le dire. Et surtout, moi je crois que la laïcité, ça n'est pas synonyme de hijab. Ce que nous allons faire ce soir, ça n'est en aucun cas un débat ni sur l'islam, ni sur le voile, ni sur le hijab. C'est vraiment un débat sur la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience, l'organisation des cultes, la séparation des églises et de l'État, etc.
Alors, la députée Anne-Christine Lang ne veut pas de candidate La République En Marche voilée au municipal. Et vous, que ce soit au municipal ou aux européennes, l'accepteriez-vous ?
Moi, je pense que ce n'est pas un sujet. D'abord, il y a des instances dans le mouvement. Ce n'est pas à moi, Marlène Schiappa, de décider
au nom du mouvement. Vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas d'opinion là-dessus.
Moi, je crois que ce n'est pas utile de crisper inutilement sur de tels sujets. Je ne pense pas que la question se pose à ma connaissance. Si d'aventure la question se posait, s'il y avait une bonne candidature d'une femme voilée, je pense que ça devrait être étudié au cas par cas. Mais actuellement, il n'y a rien légalement qui empêche une femme qui porte un voile de se présenter à des élections.
Et le président s'est exprimé avant-hier sur la question du voile. Ça ne le dérange pas que les femmes portent le voile dans la rue si personne ne les force à le porter. Mais comment vérifier que les femmes portent le hijab de leur plein gré ?
C'est une vraie question qui est extrêmement intéressante et on dit souvent que le président ne s'exprime pas sur la laïcité alors qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises. Certains nous disaient sur France Culture, là où ça a été diffusé dans le cadre du grand débat des idées, que c'était la première fois que le président s'exprimait sur la laïcité. C'est faux. Il a déjà tenu exactement ses propos pendant la campagne présidentielle lors de nombreux meetings. Moi, je crois que l'enjeu pour nous, c'est de créer justement les conditions d'exercice d'une véritable liberté de conscience. Que les femmes ne soient pas forcées de porter un voile dans certains quartiers.
Mais comment le vérifier
France.
C'est ça qui est important. possible.
On ne peut pas le vérifier. Mmh. L'idée, c'est de créer vraiment ces conditions par l'éducation, notamment par l'émancipation, par la liberté des femmes d'aller et venir, de ne pas être entravées sur ce sujet.
Parlant de laïcité, le président demande à tout citoyen de respecter absolument toutes les règles de la République. Or, le livre que vous publiez aux éditions de l'Aube, Une et indivisible, l'urgence de défendre la République, met l'accent sur les nouveaux clivages identitaires ou territoriaux qui fracturent la France. Des clivages qui, selon vous, se sont renforcés ces derniers mois, avec pour symbole l'arrivée du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, j'ai le sentiment qu'on renforce des clivages parfois de façon un peu artificielle. Quand j'entends qu'il y aurait Paris contre la province et qu'à Paris, il n'y aurait que des gens qui seraient des nantis, aisés, etc., ça m'interpelle. De la même façon, le fait d'opposer la start-up nation d'un côté avec les agriculteurs de l'autre, ça ne me semble pas opportun. L'agritech, l'innovation technologique appliquée à l'agriculture, c'est un des secteurs le plus exponentiel en termes d'innovation technologique. Je crois qu'il faut cesser d'opposer les uns et les autres et se rappeler qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale.
Marlène Schiappa, Nathalie Loiseau dit qu'elle a accepté d'être tête de liste aux européennes parce que le président et le Premier ministre lui ont mis un peu la pression. Une candidate qui se lance dans la campagne à reculons, ça ne risque pas de devenir un handicap ?
Non, moi je ne crois pas qu'elle se lance à reculons. Moi j'ai énormément d'estime pour Nathalie Loiseau, que je connaissais d'avant sa nomination au ministère. C'est quand même une femme qui n'a pas fait l'ENA et qui a dirigé l'ENA. Moi je trouve ça assez formidable en termes de secouer le cocotier, si vous me permettez l'expression. C'est quelqu'un qui a beaucoup de répartie, qui est extrêmement fine, très brillante et surtout extrêmement compétente sur les sujets d'Europe, ce qui est la première qualité qu'on va demander à une tête de liste pour les élections européennes. Moi je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'elle se porte candidate et j'espère qu'elle sera investie tête de liste.
Alors, selon le Figaro, Nathalie Loiseau serait investie tête de liste lundi soir. Benjamin Griveaux en profiterait pour sortir du gouvernement et se consacrer à Paris. Et vous êtes la grande favorite pour devenir la prochaine porte-parole du gouvernement. Ça vous plairait ?
Alors d'abord, je ne suis pas sûre d'être la grande favorite. Ensuite, chaque semaine, quand j'ouvre la presse, je découvre qu'on me projette maire de Marseille, candidate ici ou là, maintenant porte-parole du gouvernement.
Ça vous plairait d'être porte-parole du gouvernement ?
C'est pas une question de plaire ou de pas plaire.
Vous avez la parole qui porte, en tout cas.
Sans doute.
Si le président et le Premier ministre vous le proposaient ?
Mais moi, je fais ce que me demandent le président et le Premier ministre. Je suis quelqu'un de discipliné, contrairement à l'image de rebelle que je peux avoir dans les médias, qui n'est pas la réalité. Mais moi, je suis très concentrée sur l'égalité femmes-hommes, qui est la grande cause du quinquennat. Et ma seule ambition et ma volonté, c'est, si je garde la confiance du président et du Premier ministre, c'est poursuivre sur ce sujet qui est pour moi crucial et qui est un enjeu de ce siècle majeur.
Marlène Schiappa, Brigitte Bardot, dénonçant la condition animale sur l'île, a hier insulté les habitants de La Réunion en les traitant de barbares, de sauvages, de dégénérés. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, va porter plainte. Mais Bardot a déjà été condamnée 5 fois pour racisme. Alors une condamnation de plus, qu'est-ce que ça va changer ?
Moi je crois que ça va changer d'abord le fait d'apporter le soutien aux habitants de La Réunion, parce que dans ce courrier Brigitte Bardot fait vraiment l'anthropologie de comptoir en expliquant les maltraitances sur les animaux par une explication saugrenue en traitant de sauvages, de dégénérés, etc. Les habitantes et les habitants de La Réunion. Moi je voudrais leur dire tout mon soutien. Je m'associe évidemment à la démarche entreprise par ma collègue ministre des Outre-mer et par le préfet de La Réunion. Je pense qu'il faut ne rien laisser passer en matière de racisme. C'est d'ailleurs la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, notamment via l'éducation.
Plus de 500 événements sont organisés
exactement,
en France.
J'étais hier dans un lycée à Bobigny qui est très mobilisé pour lutter contre les discriminations. Je crois que c'est primordial de ne rien laisser passer à chaque fois.
Marlène Schiappa, Tariq Ramadan fait polémique alors qu'il est mis en examen pour viol. Il s'est invité lundi à Saint-Denis dans une réunion contre les violences faites aux femmes. Vous interprétez ça comme une provocation ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il est en recherche de publicité. Je trouve que c'est honteux. Quand on est mis en examen pour deux faits, c'est-à-dire que ce n'est pas une rumeur, il est mis en examen pour deux faits de viol différents, dont un sur une personne vulnérable, en situation de vulnérabilité, c'est assez honteux de se rendre dans ce débat où il sait qu'il y aura potentiellement des victimes de violences sexuelles et de les obliger à être face à lui. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont quitté la salle et qui ont donc été privés de ce débat par la présence de Tariq Ramadan, qui de surcroît a amené sa fille pour prendre sa défense. En tant que parent, ça m'interpelle ce type de démarche.
Comment vous expliquez cette démarche, justement ?
Bah écoutez, je ne suis pas dans la tête de Tariq Ramadan. Ce que je voudrais dire, en revanche, sur votre antenne, parce que les élus de Seine-Saint-Denis qui ont organisé ce débat ont été un peu mis en cause sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils n'ont pas invité Tariq Ramadan et on n'a aucune raison de ne pas les croire, dans la mesure où c'était une réunion publique, ouverte à toutes et tous. Donc je crois que Tariq Ramadan s'est invité lui-même dans l'espoir, à mon avis, de se faire de la publicité. Et c'est un amateur de provocation, on le sait.
Merci Marlène Schiappa.
Merci à vous.
C'était l'interview politique de la matinale avec Audrey Crespo-Mara. Merci mesdames. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol. À 8h30, l'essentiel de l'info. La ville de Nice sera-t-elle la cible des casseurs samedi prochain? C'est ce que redoute le maire Christian Estrosi. Vous entendrez son appel au gouvernement ce matin sur Europe 1.
Nikos.
La revue de presse, évidemment, avec David Abiker. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin, David ?
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour. C'est une question à laquelle la presse répond ce matin massivement. Qu'est-ce que c'est qu'un bon lycée ? Est-ce que c'est un lycée qui fait 100% de réussite au bac avec plein de mentions ? Ou est-ce que c'est le lycée qui vous emmène d'un point A à un point B avec la meilleure progression ?
C'est une vraie question. Autre question, la revue de presse, qu'est-ce qu'un bon imitateur ? Celui qui imite bien ou qui rit avec les gens ? Lui, il a les deux, Nicolas Canteloup, avec son cortège de personnages à 8h40.
Et tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol. Alors, qu'est-ce qu'un bon météorologue ?
C'est celui qui peut nous dire que le beau temps va durer.
Bah, il va durer, j'espère encore, je croise les doigts. On en parlait tout à l'heure hors antenne avec Nico, qui me disait, moi ce qui m'intéresse c'est la lumière.
Bah oui,
c'est
on a besoin lumière. De lumière.
Là on a enfin de la lumière, c'est vrai. Regardez, le soleil s'est levé à Brest à 7h20, à Paris à 6h50 et à Strasbourg à 6h32, parce que sinon on n'a pas le soleil à la même heure en France, vous le savez chers amis. Oui. Et là j'avoue que bon, certains bénéficient d'une lumière plus tôt. Mais ils ont la même durée de lumière aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le jour et la nuit ont la même durée. Oui. C'est le principe même de cet équinoxe de printemps. Donc à partir de maintenant, eh bien, on va aller vers des jours qui rallongent jusqu'au 21 juin, qui sera le jour de l'été. Donc de la lumière, nous en aurons aujourd'hui pratiquement sur toute la France, parce qu'il va faire un temps très très agréable, avec quand même teinté de petits nuages cet après-midi, notamment sur la Champagne-Ardenne, sur la région parisienne, sur la vallée de la Loire, avec des nuages un peu plus présents, parce que ce matin il y avait du brouillard, il est encore un petit peu près des côtes de la Manche, mais ce ne sont que des nuances à installer sur une carte de France qui me semble très ensoleillée, des températures entre 14 et 16 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mercredi 20 mars, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
Le maire de Nice, Christian Estrosi, réclame au gouvernement l'interdiction des manifestations prévues dans sa ville le week-end prochain dans le cadre d'un appel national des Gilets jaunes. Il était ce matin sur Europe 1 et il espère que des mesures vont être prises.
Le gouvernement en tout cas est préoccupé et attentif et semble prêt à prendre des dispositions assez fermes. En tout cas, moi, je les demande, je les exige même. Pour moi, la cohésion économique, sociale, le respect de l'intégrité des biens et des personnes, c'est une exigence. Nous sommes dans un état de droit. Manifester est un droit, certes, mais casser est un délit. Et lorsque nous voyons l'évolution des choses depuis quelques semaines dans notre pays, avec ces violences inacceptables, il est temps qu'on passe à une action à un degré bien supérieur.
Christian Estrosi ce matin sur notre antenne avec David Doucan. Un geste vécu comme une provocation extrême et qui a choqué les participants à une réunion publique à Saint-Denis lundi soir. Tariq Ramadan s'est invité à une réunion sur les violences faites aux femmes. Marlène Schiappa réagit ce matin sur notre antenne. Il est en recherche de publicité. C'est honteux, a dit la secrétaire d'État. Une reconstitution de la soirée où est mort Arthur Noyer va être organisée ce soir en présence de Nordal Lelandais. Elle suivait le trajet suivi par les deux hommes d'après la localisation de leur téléphone portable. Selon une source proche du dossier, Nordal Lelandais, auditionné lundi, a maintenu avoir pris la victime en stop et qu'une bagarre a entraîné sa chute mortelle. Le parquet de Lille a requis hier 10 et 6 mois de prison ferme à l'encontre de deux activistes antispécistes. Ils sont poursuivis pour avoir dégradé ou incendié des boucheries, des restaurants ou des commerces des Hauts-de-France cet hiver. Jugement mis en délibéré au 8 avril. Et puis le triste bilan du passage d'un cyclone qui ne cesse de s'alourdir au Mozambique. Plus de 300 morts. Et un ministre craint que ce nombre finisse par tripler une fois tous les corps retrouvés.
Europe 1. Nikos Aliagas, tout de suite on retrouve David Abiker pour sa revue de presse.
David, dans la presse ce matin, deux ministres ont passé le grand oral.
Et ça s'est pas passé pareil pour l'un comme pour l'autre. Allez, je commence avec Christophe Castaner. Ministre de l'Intérieur, passé hier au crible des questions des sénateurs. Castaner se défend et coupe des têtes à la une du Parisien aujourd'hui en France. Christophe Castaner cible des critiques après les saccages. Ça, c'est dans le Figaro. Mais c'est Libération qui examine le cas Castaner avec le plus de sévérité. Car en ouvrant le journal, on tombe sur ce titre d'une cruauté, j'ai rarement vu mieux ou pire. Castaner, premier hic de France. autre grand oral, celui de Jean-Michel Blanquer qui fait la une du Midi Libre et qui s'est bien passé, mieux passé que celui de Castaner au Sénat. Le ministre de l'Éducation nationale a répondu aux questions d'une centaine de lycéens et collégiens d'Occitanie dans le cadre de la semaine de la presse à l'école. Au programme de ces questions, l'information sur Internet, les fake news, le harcèlement ou encore l'interdiction du portable à l'école. En revanche, très peu de questions sur ce qu'on apprend au collège ou au lycée, ça non. Malgré ça, le Midi Libre attribue une belle mention à la prestation du ministre, c'est vous dire. Mais la mention du jour, elle revient surtout au classement des meilleurs lycées, qui fait la une d'un quotidien régional sur deux.
Un classement rendu public par l'Éducation nationale.
La République des Pyrénées parle des lycées les plus performants, alors que Var Matin s'entête, oui, s'entête à parler de classement. Justement, il faut arrêter avec les classements. En fait, c'est pas tout à fait un classement, ce sont les indicateurs de valeur ajoutée des lycées publics ou privé sous contrat. Ça, c'est le sabir de l'Éducation nationale, mais c'est assez facile à expliquer. Ces indicateurs permettent d'apprécier l'action des établissements, précise Ouest France. Si vous les classez, les établissements, selon leur réussite au bac ou au nombre de mentions, vous ne faites que donner une prime au lycée qui sélectionne les meilleurs et vire les moins bons avant le bac. Comme ça, ils ont 100% de mentions. C'est un peu facile. Non, ce qu'il faut regarder, explique le Dauphiné, c'est la manière dont les établissements accompagnent les élèves de la seconde jusqu'au bac. Et là, c'est cohérent, car on mesure le travail accompli par le lycée et les enseignants. Un peu comme on apprécie non pas le résultat de l'élève, mais sa capacité de progresser. Vous savez comment on appelle ça, en fait, trivialement ? C'est ce qu'on appelle le mérite. Le mérite. Alors, quel lycée progresse le mieux ? Ben, vous avez le lycée de Vauban, de Lille, on en parlait ce matin à l'antenne d'Europe 1. Mais le Parisien, aujourd'hui en France, affine les critères de l'Éducation nationale et propose lui aussi sa propre évaluation. Il cite par exemple le lycée Simone Veil à Dijon ou encore le lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Un lycée qui prend les élèves avec de grosses lacunes en français, des difficultés de comportement et qui, sur 3, voire 4 ans, accomplit un miracle selon les mots du quotidien. 100% de réussite au bac pro, 84% au bac général. Mais je le répète, ce qui compte, c'est d'où on part et où on arrive avec les élèves. C'est faire toujours plus et parfois ce sont des tout petits plus qui font la différence parce que c'est un travail de dentelière. Une équipe de direction qui accueille les lycéens le matin et qui leur dit bonjour. Des profs qui sortent dans la cour discuter avec les élèves au lieu de rester en salle des profs pendant la pause. Un soutien scolaire ouvert 10 heures par jour, des prépas à Sciences Po, à Dauphine, des cours d'éloquence. Ça s'appelle de l'investissement humain dans la durée pour élargir l'horizon des possibles. Expression d'un prof de ce lycée de Seine-Saint-Denis qui, lui, est là depuis 20 ans. Les résultats dans tous les domaines, il n'y a pas de secret, il faut du temps, disait la publicité.
Dans votre revue de presse ce matin, David Abiker, des classements, des palmarès, des évaluations réjouissantes, mais des chiffres qui inquiètent aussi.
Et que rappelle ce matin Libération qui fait sa une sur l'amiante, un poison à l'école. Le problème des bâtiments scolaires susceptibles d'être contaminés par l'amiante n'est pas réglé, loin de là. Le quotidien cite les chiffres toujours d'actualité de l'Observatoire de la sécurité des établissements d'enseignement. Ceux qui ont été construits avant 1997 n'ont pas tous été désamiantés. 80% des lycées pro, 77% des lycées généraux, 73% des collèges, 38% des écoles. On a du mal à avoir des chiffres, indique Libération, des chiffres à jour. En revanche, beaucoup de rapports, de plans d'action d'urgence, mais d'évaluation ou d'état des lieux général, on ne trouve point vraiment de traces. Jean-Michel Blanquer, encore lui, a bien annoncé la création d'une cellule sur le bâti scolaire. C'était en octobre. Elle ne sera en place qu'à la rentrée 2019. C'est long et peut-être pas à la mesure de l'enjeu. Allez, je termine avec une brève publiée ce matin sur le Figaro et dans le Parisien, figaro.fr. Ça n'a rien à voir avec l'éducation et pourtant, il y a peut-être un lien. Le site de vente de la SNCF, Oui SNCF, va désormais proposer à ses utilisateurs la possibilité de réserver et payer des billets de train via la messagerie du géant américain du numérique Facebook Messenger, a annoncé mercredi le groupe ferroviaire. Ça n'a rien à voir avec l'éducation et pourtant le temps passe. Qui se souvient encore que Facebook a été créé il y a 15 ans exactement pour faciliter les relations entre étudiants à l'université? 15 ans plus tard, on y vend des billets de train. Vous voyez, on n'arrête pas Facebook.
15 ans déjà.
Ouais.
Et vous n'avez pas changé. David Abiker, tous les jours pour la revue de presse sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et il arrive dans une poignée de secondes, festival d'imitation en prévision. Et il n'est pas seul.
Mais non, il y a Julie qui l'accompagne, évidemment.
Nicolas Canteloup à la revue de presse juste après ça. C'est le printemps aujourd'hui, on sourit et on rit.
A tout de suite avec Nico Saliaga sur Europe 1, il est 8h39. Il est 8h41.
Et 22, Vlad Canteloup et la revue de presse avec Julie, c'est parti.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Attention, elles sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Mara et son invité.
Marlène Schiappa, Christophe Castaner est le maillon faible du gouvernement. Non, écoutez, Christophe Castaner fait un travail formidable. Il y a juste un petit souci, vous le savez, dans la chaîne de commandement. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui fait un travail formidable. Marlène Schiappa, le président dit qu'il n'est pas dérangé par le voile dans la rue. Comment sait-on qu'une femme n'est pas forcée de porter le voile? Écoutez, madame Audrey Crespo-Mara, le président fait un travail formidable. Il se bat sur tous les fronts pour la liberté de la femme. Il se bat pour l'égalité homme-femme. Vraiment, il fait un travail formidable. Marlène Schiappa, un mot de Nathalie Loiseau qui est candidate sous pression apparemment. Nathalie Loiseau fait un travail formidable. Elle dirige l'ENA alors qu'elle n'a pas fait l'ENA. Elle secoue le cocotier. Si on me permettait l'expression, vraiment, elle fait un travail formidable. Bon, tu vas me dire du mal de quelqu'un? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan fait un travail formidable. Et il y a... Non, pardon. Excusez-moi, j'étais en pilote automatique. Mais quand même, on a réussi à vous faire dire du mal. Voilà. À vous, Julie.
Merci à toutes les deux. Bien la voix de Marlène Schiappa. Allez, très vite, le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos.
Ouais, mais elle n'est pas mieux que la mienne. On l'a entendu à 8h, l'info surround, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui demande au gouvernement d'interdire le rassemblement des Gilets jaunes à Nice samedi prochain où il craint des événements. Pardonnez-moi. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis de s'occuper personnellement de ce dossier en donnant rendez-vous à Christian Estrosi ce vendredi à Nice sur le dance floor de la discothèque, de l'Apotheca et du Calypso Bar. Wow. Ouais, ouais, chaud, j'y serai.
Allez, tous à Nice. Cette semaine, Christophe Castaner et Bruno Le Maire ont été convoqués devant le Sénat. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Leclerc. Et bonjour aux autres, à tous les sous-fifres. Les sans grade, les moins que rien, les ronds de cuir, les silencieux à pied ou en Lexus.
N'importe quoi.
Merci, on a compris hein, l'allusion. Il a été comment, Christophe Castaner, hier?
Écoutez, chère Julie Leclerc, il n'y a pas de débat. Je n'ai pas peur de le dire, il a été très bon, disons-le.
Avant, il a dit quoi?
Rien. Il a fermé sa grande gueule de kéké tout le long. Un sans faute, le kéké, le kiki. Vous connaissez le proverbe qui ne dit mot consent. Mais il y a surtout qui ne dit mot évite de passer pour un con.
Magnifique aphorisme. Aphorisme. Merci Bruno Le Maire.
L'aphorisme, c'est
autre chose.
Oui, non,
oui, c'est autre chose.
C'est l'euphorie du printemps.
Voilà. J'en parle de Bellamy contre Glucksmann maintenant. Le PS et les Républicains ont tous les deux choisi un intellectuel comme tête de liste aux européennes. On va en parler avec un Européen convaincu. Bonjour Dany Cohn-Bendit.
Bonjour Thomas. Salut les autres. Ah ouais, écoute, j'aime bien démarrer par bonjour Thomas.
Thomas hein,
parce que s'il nous écoute chez lui dans un demi-sommeil, l'ami Thomas... Thomas Soto, pour les auditeurs qui le connaissent bien, il doit se réveiller en sursaut et se dire « Merde, j'ai oublié d'aller en Europe !» Puis là, il dit « Ah non, coup de bol, ils m'ont viré. Non, c'est bon, je peux me recoucher. Bisous, Thomas. » Oui,
salut.
Quoi qu'on disait alors.
Bellamy contre Glucksmann.
Ouais, Bellamy contre Glucksmann. Un duel de philosophes, c'est incroyable, ça.
Bah oui, c'est super pour le débat d'idées, en tout cas.
Bah, c'est super, mais... Ouais, non, mais attends... Tu peux pas dire que c'est super. Julie, allons, t'as pas vu la manœuvre politique? Le PS et les Républicains, ils vont se prendre une tôle aux européennes. Personne ne veut, tu penses, assumer la chouma politique de l'échec aux européennes. Alors on envoie deux couillons se prendre le mur. Tu sais comment on appelle ça?
Bah non.
Ben, un dîner de cons. Mais un dîner de cons à l'envers. Là, tu vois, c'est Wauquiez et Morano qui invitent un philosophe, un intellectuel à se ridiculiser. Et les socialistes ont adoré l'idée. Ils font le remake, tu vois. T'as compris quand je décode l'arnaque?
Bon.
Hein? Ouais. Bon, allez. Salut Thomas.
Bon, Dany, c'est plus clair, effectivement. À bientôt.
On l'embrasse.
On l'embrasse.
Après les violences sur les Champs-Élysées, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est fragilisé. Pourrait-il sauter, en tout cas, les... Qui est-ce qui arrive, là?
Comment, qu'est-ce que vous dites? Il pourrait sauter.
Ah, c'est vous, Gérard Collomb, bonjour.
Oui.
Oui, bah, votre successeur est dans la tourmente. Hein.
Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron n'est pas heureux avec lui? Emmanuel, si tu m'entends, je m'adresse à toi. Tu ne l'aimes plus? Christophe, quelque part, t'as déçu, mais Emmanuel... Emmanuel, parlons-nous. Tu sais, je sais, parti fâché, parce que je voyais bien que tu le regardais plus que moi. Mais aujourd'hui, la couleur colère est passée. On peut peut-être prendre un café, toi et moi. Enfin, tu prendras un café, moi je prendrai un Viandox. Mais tout peut encore se réparer. On a vu souvent rejaillir le feu. Du kiosque ou de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux.
Bon, alors, pareil, Monsieur Collomb, bah, c'est fini pour vous maintenant, hein, c'est bon.
Mais non, Emmanuel, écoute-moi, on s'est bêtement déchiré. Ouvrons les yeux, je peux revenir. Rappelle-toi le bon vieux temps. Quand j'étais là, tu avais une cote de popularité de 197%. La France gagnait la Coupe du Monde. Et puis Castaner est arrivé, et les Champs-Élysées ont brûlé, la révolte est partout, et l'équipe de France de rugby se fait pilonner. Veux-tu revivre de beaux moments? Oui, je le pense, je le sais, je le sens. Appelle-moi. Ah, appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. Que tu m'aimes.
C'est bon.
Excusez-moi.
Bon allez, c'est bon, merci Gérard Collomb. Selon l'Express, Emmanuel Macron aurait passé la soufflante du siècle à Christophe Castaner. On est en duplex avec l'Élysée, Monsieur le Président, bonjour.
Oui, bonjour à toutes et machin, oui.
Merci. C'est vrai, vous auriez engueulé à ce point le ministre de l'Intérieur?
Écoutez, il me fatigue. Ah. Je n'en peux plus. Je peux vous dire, je suis colère. Les Champs-Élysées dans cet état, franchement. Non, mais là, j'en peux plus. Là, il travaille dans le bureau d'à côté, vous voyez. Et là, ouais.
Ambiance.
C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Christophe. Christophe. Je croyais que je t'ai dit de bosser. Tu comprends ce mot? Bosser.
Mais je travaille, Monsieur le Président. C'est juste que la techno, ça m'aide à réfléchir.
Réfléchir? Non mais, comme si tu savais réfléchir. Bon, tu me coupes ça maintenant, parce que c'est mon projet.
Bon, d'accord. Je peux travailler en musique maintenant.
Plus franchement, j'étais en train de bosser sur de nouvelles idées pour le maintien de l'ordre en plus. Tiens, je me disais, il faudrait peut-être, pour apaiser le climat des manifestations, je ne sais pas, faire quelque chose. Du coup, on pourrait mettre peut-être du savon dans les canons à eau. Et si ça dégénère, on fait une soirée mousse, ça détend tout le monde. Christophe, attention, Christophe, regarde-moi dans les yeux. Non, là, t'as les yeux vitreux. Non, regarde-moi dans les yeux. Tu vois, tu es sur une fine... Comment te donner une image? Tu es sur une fine pellicule de glace. Je te conseille de te remettre au boulot si tu veux pas pointer au chômage lundi matin, ok?
Oula. Monsieur le Président, pardon, mais pourquoi vous ne le virez pas s'il vous met dans cet état?
Mais je ne peux pas. Ah. Qui va être assez con pour accepter une place aussi pourrie? Je suis obligé de garder quelqu'un d'assez bas de plafond pour scoltiner la pire place de l'exécutif. L'inconvénient, évidemment, c'est... Oh putain, c'est pas vrai. Bon, ben l'inconvénient, vous l'entendez comme moi. C'est qu'à la fin, on croit avoir Castaner et on a Bob Sinclair à l'intérieur.
Attendez, on va rester justement un petit peu avec Christophe Castaner. Monsieur le ministre, comment éviter ces violences?
Vous voyez, je suis à l'écoute puisque j'ai baissé. Écoutez, ça c'était le travail du préfet de police, Michel Delpuech.
Oui, oui.
Mais également de toute la chaîne de commandement qui a failli. Je pense au sous-préfet Michel Molnareff. Je pense également au commandant de police Laurent Boulzu. Je pense au capitaine Michel Fupin. Je pense au colonel de gendarmerie B. Jérôme. Et bien sûr, les lieutenants Sten et Chardonne.
Et Emmanuel Macron, la presse raconte qu'il vous a passé la soufflante du siècle, comme on dit.
La soufflante du siècle. Écoutez, ouais. Non, je m'inscris en faux. La soufflante de la décennie, je dirais plus exactement. Parce que la soufflante du siècle,
C'est ma femme qui me l'a passé.
Ah, bah écoutez, on la comprend un peu, hein, quand même. Merci, monsieur Castaner. Allez, autre chose, l'abbé Alain de la Morandée a tenu des propos qui font scandale au sujet de la pédophilie dans l'Église. Il a déclaré « Vous avez tous pu observer un enfant qui a besoin de tendresse. Il vient, il vous embrasse sur la bouche. » Dingue.
Alléluia.
Oh là là, Philippe de Villiers. Non mais là, quand même, c'est n'importe quoi, non?
Pas du tout, femelle. Tu n'as jamais été adolescente, Leclerc. Moi-même, alors que mon corps changeait, se transformait, se métamorphosait, que mes hormones me travaillaient,
oula,
j'étais tout chamboulé quand je voyais l'abbé de Chamoulin, 88 ans, mettre des hosties dans son tabernacle.
Ah non, arrêtez.
À cet instant, ce vieil homme flétri pour moi, c'était Brad Pitt.
Ah, oh, pitié, monsieur de Villiers, stop.
Non, pas pitié, Pitt.
Brad pitié.
Non mais arrêtez maintenant.
Mais quoi, bon, qu'est-ce qu'il y a, femelle? Mais qui à cet âge-là n'a jamais embrassé une photo de l'abbé Pierre? Qui, je le dis, autour de ce studio de maintenant, adolescent, n'a pas découvert son corps sur les photos de Mère Teresa? Mais oui, comme vous, Nico Siagas, je cachais sous mon lit des photos de Sœur Emmanuelle. Alléluia.
Bah alors, Nikos.
Mais ça va pas, ça, pas il devient de plus en plus dingue, hein, votre copain. Nicolas Canteloup, tous les jours, pour la bonne humeur du printemps, ce jour, de premier jour de printemps, et la revue de presque. Leclerc, vous n'avez jamais été adolescente, qu'est-ce qu'il a dit?
Non, moi j'embrassais pas. Non, j'embrassais les photos de James Dean, moi. Dans
ouais, c'est pas mal.
Et Wendy Bouchard, ce matin, vous allez embrasser les photos tout en camon, je crois.
Voilà, voilà, on travaille en musique, pas avec la techno, mais avec la musique de l'Égypte ancienne. En effet, ça va être formidable. Dans le prolongement de la matinale, l'intimité de tout en camon, on revisite ces trésors magnifiques. C'est en tournée dans le monde et ça s'arrête à Paris pendant quelques mois. Ça, c'est pour le deuxième sujet à partir de 10h.
D'accord.
Mais dès 9h, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter que les pharmaciens jouent un rôle plus important dans notre système de santé, on vous demande ce que vous pensez de cet article de loi qui peut être voté et qui pourrait autoriser demain les pharmaciens à prescrire des médicaments sans ordonnance pour des pathologies qu'on appelle du quotidien, angine, cystite, etc. Alors, un certain nombre de médecins vont debout, mais les pharmaciens trouvent ça très intéressant. Je serai avec tous ces représentants.
Notamment pour lutter contre la désertification
et
les déserts médicaux.
Pour élargir l'accès aux soins, vous savez que les pharmaciens sont des professionnels de santé de proximité. Le médecin urgentiste et parlementaire Thomas Meynier viendra nous raconter aussi son projet avec cet article de loi. À tout à l'heure.
On sera là à partir de 9h pour vous écouter. Le tour de
Merci
la question
beaucoup.
Est Wendy Bouchard.
À suivre la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h55, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nico Saliagas, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Grand soleil à prévoir, mais il y a encore quelques petits nuages sur la moitié nord.
Oui, c'est dû à une position, bon, on ne peut pas rentrer dans les détails techniques, on s'en fout en général, hein, c'est oui. L'anticyclone a une position telle qu'il laisse passer des nuages. Oui, non, c'est vrai.
Écoutez, celui qui nous écoute ce matin en arrivant au boulot, c'est vrai que si on lui explique les détails techniques du nuage.
Non, l'anticyclone, bon. Ça, il dit j'ai rien à faire. Je veux savoir si je vais manger dehors à midi. Voilà, c'est ce qu'il veut savoir.
Hein. Entre autres.
Bon, donc près des côtes de la Manche, vous allez pouvoir manger dehors à midi, mais avec quand même un petit blouson. Sur Paris, avec un bon pull. Et après, vers le sud, ça ira beaucoup mieux. Et là, vous pourrez promener en chemisette. Alors, en ce qui concerne la journée, c'est vrai que nous avons en ce moment des passages nuageux dus à la position, justement, de l'anticyclone, qui va se bouger. Bouge-toi de là. Il va se bouger, il va aller vers l'Allemagne. Et là, à partir de demain, ce sera beaucoup plus sec sur toutes les régions qui sont marquées par les nuages aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, nous allons maintenant vers jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vers des journées vraiment très belles partout.
Magnifique.
Et la semaine prochaine, j'espère qu'il en sera de même. Mais on n'est jamais à l'abri d'un petit passage pluvieux, mais de très courte durée. Je continue à dire que le beau temps sera là jusqu'à la fin du mois.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le mercredi 20 mars, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, c'est le printemps aujourd'hui, on l'a dit, et une bonne nouvelle ce matin, l'économie française résiste mieux que prévu à la crise. C'est l'INSEE qui tend le coup à nos idées reçues. Écoutez les explications de Nicolas Barré, c'était à 7h15.
En fait, on a mis de l'argent dans l'économie. Hein. Les mesures à plus de 10 milliards d'euros qui ont été prises pour répondre à la crise des gilets jaunes soutiennent l'activité. Elles sont financées accessoirement, essentiellement par de la dette. Ça, c'est le point noir. Mmh. Les entreprises aussi ont joué le jeu. La prime Macron défiscalisée a bénéficié à plus de 2 millions de salariés. Ça n'est pas rien. Voilà pourquoi l'économie française résiste mieux. Ne nous emballons pas. Le gouvernement prévoit pour l'ensemble de l'année une croissance de 1,4%. Mmh. Ça n'est pas mirifique. Mais enfin, nous ferons presque deux fois mieux que l'Allemagne et mieux que la moyenne de la zone euro.
Nicolas Barré sur Europe 1. Certains députés font hurler les médecins. Ils veulent forcer les jeunes diplômés à s'installer dans les déserts médicaux. Alors que le débat est en cours à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi santé, le patron des facs de médecine, Jean Sibille, y a été mon invité ce matin. Il a réagi sur notre antenne à ces propositions des députés. Écoutez, c'était à 7h45.
Ces jeunes médecins ne se planquent pas. Nos jeunes médecins font des études longues, compliquées. Ils travaillent pendant quelques années pour rendre au service public. Quand ils sont internes, ils travaillent. Donc ils rendent déjà un service public pendant de nombreuses années. Trouvons des solutions ensemble. La mesure à long terme, c'est la disparition du numerus clausus. On va pouvoir augmenter le nombre de médecins, mais ça portera ses fruits que dans 10 à 15 ans. On a de la télémédecine, on crée des infirmières de pratique avancée, la liberté d'installation et la liberté du patient de choisir son médecin,
quand on a
c'est fondamental.
Et puis ce geste perçu comme une extrême provocation, Tariq Ramadan s'est invité à une réunion publique sur les violences faites aux femmes. C'était lundi soir à Saint-Denis, l'islamologue est soupçonné de viol en France et en Suisse. Écoutez la réaction ce matin de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, qui était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara.
Je pense qu'il est en recherche de publicité. Je trouve que c'est honteux. Quand on est mis en examen pour deux faits de viol différents, c'est assez honteux de se rendre dans ce débat où il sait qu'il y aura potentiellement des victimes de violences sexuelles et de les obliger à être face à lui. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont quitté la salle et qui ont donc été privés de ce débat par la présence de Tariq Ramadan, qui de surcroît a amené sa fille pour prendre sa défense. En tant que parent, ça m'interpelle.
Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques. Merci à vous de votre fidélité. Restez à l'écoute d'Europe 1, Wendy Bouchard arrive.
Je suis là avec vos témoignages, les amis.
Aussi solaire que le printemps. À demain, chère Céline Dacosta.
Avec plaisir, à demain.
Prenez soin de vous, au revoir Julie.